Vous avez ici, apparemment, on est quand même sûr, pas sûr à 100%, mais quasiment, la représentation de l'adolescent Gustave Courbet. Cette peinture date de 1837. Or, Gustave Courbet est né en 19, donc nous avons une fin d'adolescence, là, représentée en Saint-Bernier. Cette peinture, j'allais dire semi-naïve, surtout quand on la compare aux autres peintures de Claude-Antoine Beau, que vous avez là en représentation d'ornant. Je dis bien semi-naïve, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Elle est la clé, je dis bien la clé, et c'est dommage qu'elle n'ait pas paru à l'entrée de l'exposition temporaire, elle est la clé de l'exposition que vous allez visiter avec mon commentaire. Pourquoi? Alors, ce que je vais vous raconter là, c'est écrit dans le site que j'ai sur Internet. Si vous ne savez pas trop où le trouver, vous prenez Google, vous tapez Yves Mesmer, Gustave Courbet, et vous allez tomber sur le site Courbet, les mythes de l'humanité, dans lequel je développe ce que je vais dire tout de suite là. Ou bien vous prenez carrément dans le bandeau au-dessus, mythistoria.org, je dis bien mythistoria.org, et vous tombez sur le site avec la page d'accueil. Bon. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors je vais faire ce qu'on appelle, c'est ma méthode habituelle dans les conférences et dans les visites, la maïeutique. La maïeutique, c'est un système de Socrate et de Platon qui consistait à faire accoucher l'esprit. C'est-à-dire à faire, tout le monde connaît la vérité, elle est intérieure en vous, et il faut arriver à la trouver. C'est la méthode professorale, finalement, qui fait découvrir aux élèves, tout d'un coup, il dit, tiens, ou comme le bourgeois gentilhomme, je ne savais pas que j'étais aussi savant. Et bien, vous allez voir que vous êtes très savant. Remarquez déjà une première chose. Regardez bien sa tête. Regardez bien la chevelure. Vous voyez, une frange. Qu'est-ce que vous voyez, madame, ici? Regardez ce visage, vous qui êtes peintre. Approchez-vous du tableau.
Le Christ, qui est une farce.
Non, ce n'est pas une farce. Regardez, comparez les deux visages. Ça ressemble.
Ça ressemble, oui.
Comparez cet autre visage.
Oui.
Ça ressemble. On va faire le test avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Il y a la troisième feuille. Regardez.
Évidemment,
c'est le même profil. Vous pouvez regarder aussi, madame. Regardez le visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble? Ça ressemble? Ça ressemble? Celui-là aussi?
Il n'est pas dans le même sens.
Celui-là aussi? Regardez la frange au milieu. Vous savez, vous ne savez pas ce que c'est que ces trois peintures. Pourtant, elles sont de Claude-Antoine Beau. Et ça représente Saint Jean l'Évangéliste. C'est le même visage que celui de Courbet. Ça, c'est la découverte du siècle. Pour la bonne raison, c'est que dans un village du plateau, nous avons découvert, et on le connaissait déjà, n'est-ce pas Alain, il est par là. Nous avons découvert 14 tableaux copies de grands maîtres, dont Regnault, ici, le Titien, Raphaël. Donc, 14 stations de chemin de croix, signé Beau, Claude-Antoine Beau, qui a donc copié à la perfection. Ils sont presque plus beaux que les Titiens et consorts. C'est quand même un crime de dire ça. Mais il a mis à la place des têtes originel ou original les visages connus de certaines personnes. Et le plus proche, parce qu'il est aussi Saint Jean l'Évangéliste, patron du vin, il est représenté souvent avec un calice, avec un serpent à l'intérieur, parce qu'on a essayé de l'empoisonner avec du vin avant qu'il soit martyrisé. Donc Saint Jean l'Évangéliste est notamment dans le sud de la France patron du vin. Eh bien, le visage de Courbet a servi au Père Beau, et ses peintures datent de 1843. Ce qui veut dire que en 1843, il y avait encore des contacts entre Gustave Courbet et Claude-Antoine Beau, tellement importants que nous avons pu remonter cette fois toute l'histoire de Claude-Antoine Beau, qu'on ne connaissait pas. C'était un plâtrier peintre à l'origine, qui a été découvert par des grands peintres de Besançon et de Paris, et qui a été formé grâce à eux à la copie des grands maîtres. Bon, on n'imagine pas que Claude-Antoine Beau a pu peindre, vous les verrez un jour, parce qu'elles seront, quand elles seront rénovées, elles seront exposées naturellement, mais c'est des tableaux qui font 1,50 m sur 1,20 m. Imaginez la richesse de la découverte, c'est énorme. Alors je tenais à le préciser parce que en 1943, Claude-Antoine Beau écrit encore à ce moment-là le fait que quand il a fait un tableau, quand Courbet a fait un tableau, il va en parler à son père et à son ami Claude-Antoine Beau. Ça, c'est nouveau aussi, on ne connaissait pas cette correspondance. Donc, dans les années 40, Gustave Courbet en référait encore à son maître de dessin du petit séminaire d'Ornans. Alors, ce petit séminaire d'Ornans l'a effectivement très marqué. Et on va parler mythologie, là. La mythologie du vin. Quelle est l'attribut principal de Saint-Vernier ? La serpette, qu'on appelle aussi Gouillot. Guyot, dans certains rangements, Gouas en Bourgogne, j'ai trouvé un Gouas, G-O-Y, en Bourgogne, au XVIe siècle, dans une confrérie dite de Saint-Vernet. Donc c'était déjà Saint-Vernier, vous voyez. Remarquez les choses là. Ils font penser à certaines choses qu'on trouvera dans certaines peintures, notamment dans l'enterrement Ornans. Bizarrement. Oui, des guêtres. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on voit encore? Alors là, moi je fais la maïotique. Une pioche, comme on appelle souvent dans la vallée, hein, pour faire une fosse, un bigot, ou bien le fossou. Le fossou. Hein. Une pioche. Un chien. À quoi servait le chien? Pour un vigneron. Il était plus qu'un compagnon. Allez, oh, on cogite. On rentre dans
chasser un animal sauvage.
Ils avaient pu chasser des souris comme le chat, mais c'est pas ça. Ou un renard, oui. Pour un chat, Courbet chasseur, ça se comprend. De toute façon, le chien, vous allez le trouver dans toutes les peintures, sauvage ou pas, chez Gustave Courbet. C'est un des symboles de Gustave Courbet. C'est une de ses marques. Et nous allons le trouver naturellement dans le retour de la conférence. La fidélité, c'est sûr. Jusqu'où? Jusqu'à la mort. Pourquoi? Allez.
Non, je pourrais le dire.
Merci, dis-le, dis-le, va, dis-le.
Ce que les enfants faisaient après, ils rentraient dans la bougie, ils avec la bougie dans le tonneau pour voir s'il y avait des...
Vous avez compris, on rentrait avec une bougie dans le tonneau. Si la bougie s'éteignait,
il fallait vite se sauver.
Quel hein? Rapport avec le chien, je
comprends pas. Ben, le chien, il est tout en bas. C'est le premier mourir. Ça date des mines romaines. Les Romains, quand ils exploitaient des mines, ils avaient toujours des chiens à la fois pour porter les minerais sur leur dos comme des ânes, mais en même temps, quand ils voyaient le chien retourner là, alors c'était la trompe, et tout le monde s'en allait de la mine. Voilà. Et c'est une explication que nous avons découverte dernièrement, naturellement, et le Père Beau, lui, a bien signifié ça. Et cette fidélité du chien jusqu'à la mort, c'est essentiel chez Courbet. Et vous allez le voir dans plusieurs tableaux. Et puis, vous avez deux autres attributs très importants que nous allons redécouvrir chez Courbet à propos de ce tableau disparu. Naturellement, avant le Guyot, qu'est-ce qu'il y a sur le côté droit? La vigne. La vigne, avec le cèdre. Donc, en parallèle, nous allons avoir un autre arbre nourricier, qui est le... Ah, bravo! Le chêne est avec le symbole de Dionysios, du dieu du vin et de la nature, le dieu du chêne en même temps. Qu'est-ce qu'il y a qui nous grimpe autour?
Le lierre.
Le lierre. Eh bien, vous avez tout trouvé.
Le lierre, c'est je m'attache ou je meurs.
Eh bien, voilà. Eh bien, vous avez tout trouvé, déjà une grande partie de l'explication du retour de la conférence. Eh oui. Eh oui. Parce que le vin, hein?
Qu'est-ce qu'il fait d'après vous, le verre?
Il va couper
la grappe de raisin.
Il est en train d'abattre les gourmands.
Oui, il est en train d'abattre les gourmands. Parfait. Bien, monsieur. C'est bien, monsieur. C'est vraiment une innovation dans ces cas-là, oui. Tout à fait. Donc, alors, une chose essentielle aussi dans toutes les peintures de Gustave Courbet qui ont trait à ce thème-là, et dans le retour de la conférence aussi, il y a soit une maison, soit un clocher. Ici, c'est le clocher de la... Vous pouvez prendre, ici, vous êtes dans un domaine où vous pouvez prendre des photos. Hein. Pas de problème. Hein. Alors, naturellement, vous avez le complément obligatoire, la falaise, qu'on va retrouver dans la peinture. Les falaises, le château d'Ornans, vous voyez, les fermes de ces fontaines. C'est très bien fait, c'est très bien décrit. Vous avez une peinture complète. Alors, nous allons nous arrêter là, mais retenez bien une chose. Cette peinture est faite en 1837, au moment même où un ami, lointain cousin de Gustave Courbet, qui s'appelle Maximin Buchon, qui apparaît dans les listes d'un opuscule du petit séminaire d'Ornans en 1831, c'est l'année même où il s'inscrit en 7e. Donc, Maximin Buchon publiera 2 ans plus tard, mais a écrit, signé, classe de rhétorique 1837, je vous le montrerai tout à l'heure, un poème, une troisième partie de poème qui s'appelle « La Vierge du Vieux Chêne ». La Vierge du Vieux Chêne, ça vous rappelle naturellement, ça vous servira aussi d'introduction parce que là vous allez faire des découvertes extraordinaires. Moi-même, je l'ai faite, cette découverte, dans la salle à côté, parce que ce livre de poèmes était remisé, comme les poèmes de Max Buchon, mais fermé. Et sur Gallica, j'avais réussi à trouver l'écriture de ce poème. Et d'un seul coup, j'ai été frappé par une lithographie daté de 1837, donc de Gustave Courbet, qui a peint la Vierge du Vieux Chêne dans son tronc véritable. Et ça, c'est une des découvertes qui a permis à Catherine Joly, que je remercie maintenant, avec le président, Catherine Joly, que je remercie avec le président Novelli, et j'allais dire Madame Dominique, ici présente, qui est membre de l'Institut. Oui. Donc, d'avoir permis cette grande exposition régionaliste, pour une fois. Et donc, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, on va passer une minute.
Monsieur, s'il vous plaît, oui. Une question. On dirait qu'il y a aussi un côté mystique, parce que ça rappelle un peu le vin, là, pour le sang du Christ, on dirait qu'il est... Il regarde vers le ciel et
alors,
il ouvre les mains comme s'il voulait...
Si vous visitez le musée par ailleurs, vous allez trouver une peinture qui a été faite pour les rameaux du Christ au jeudi saint, dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Il est à genoux et il y a le calice en face. Que ce calice s'éloigne de moi. Il est dans les salles à côté. Vous allez le trouver, les mains ouvertes, tout à fait, votre main... est tout à fait approprié. C'est l'offrande. Alors, quand on me dit que déjà dans les années 40, il ne croit plus en Dieu, je pose une très grosse question dont on aura la réponse, je peux vous le dire, en conclusion. Ce n'est pas vrai. Il a toujours cru en Dieu et il n'attaque pas la religion, il le dit lui-même. Il attaque ses serviteurs qui des fois déconne, entre guillemets. Voilà. Mais nous le verrons au fur et à mesure des passages. Alors, donc, retenez bien, c'est effectivement cette offrande du corps du Christ, de la main qui est ouverte et qui en même temps montre la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Il y a tout un thème qui est développé par le Père Beau que va retenir Gustave Courbet, y compris dans le blasphème des prêtres devant Notre-Dame du Chêne. Alors, on va passer dans le couloir à côté, on ne s'arrêtera pas. Vous regarderez, je crois que c'est là qu'il y a la peinture du rémouleur, du rétameur. Et vous allez voir que ce rétameur est devant un arbre très important qui est le chêne. Et ce rétameur, je tiens à en dire un petit coup historique puisqu'on est enregistré, c'est aussi une peinture de ces années-là qui est considérée comme insignifiante alors qu'elle est la clé peut-être du chêne de Vercingétorix que le département et vous-même par la souscription avez acheté. Tout simplement parce que l'étamage est une invention gauloise et que l'étamage a été inventé dans une ville qui était la capitale religieuse des Gaules, Alésia. Et donc, quand on achète le chêne de Vercingétorix près d'Alésia en Franche-Comté, il avait déjà peint auparavant un chêne du rétameur, qui était l'insigne de l'origine d'Alésia. Naturellement, il faut pour cela chercher un peu dans les textes. Et il suffit de lire Pline l'Ancien dans son histoire naturelle pour savoir que l'étamage était une spécialité d'Alésia, qu'il soit en Bourgogne ou dans le comté de Bourgogne, ce que je pense volontiers.
Ça consiste en quoi exactement l'étamage ?
Alors l'étamage, c'est la couverture en étain d'ustensiles. Vous allez le voir très rapidement là. Et puis après, on voit l'exposition temporaire. On est bon ? Alors, je parlais donc de l'étamage. Vous voyez les instruments qui sont étamés ou rétamés quand ils sont un peu percés. Il est assis les pieds au pied de l'arbre et de ses racines, il prend la force du chêne. Vous savez, moi j'ai invité au chêne des Trépiniers en forêt de Chaux, dont on parlera tout à l'heure, un chêne à gui. Tous les gens de la forêt de Chaux connaissent le principe. On va sur les racines, on met les pieds, on se met en chaussettes au minimum, ou à pieds nus, c'est encore mieux, et on embrasse le chêne et on lui prend toute sa force. Eh bien, nous avons là, effectivement, regardé, les enfants sont là, certainement de la famille de Gustave Courbet, et vous avez l'étameur qui est là en train de travailler sur les outils de sauvegarde. Mais regardez bien ici, vous avez le chêne, bien droit, et un deuxième arbre, qui à la fois paraît maigrichon, jeune ou vieux, apparemment plutôt vieux et maigrichon. Mais il y a un doublon, il y a la force et la faiblesse. Nous allons retrouver ça dans le retour de la conférence. Personne n'a vu qu'il y avait un deuxième arbre. Bon, on y va.
Monsieur, l'étain, c'est un métal précieux et rare, non ?
L'étain était un métal assez rare, qui faisait l'objet d'un commerce international de l'époque. On importait ça depuis les îles de l'Angleterre.
Et puis on rétamait les casseroles avec ça ?
On rétamait les outils de cuisson. Bon, nous avons ici donc une reproduction. Donc il faut savoir, et vous le savez, que le tableau a été acheté par un conservateur entre guillemets, qui n'a pas compris le sens de cette, allégorie. C'est une allégorie profonde à laquelle tenait beaucoup Gustave Courbet parce qu'il l'emmenait toujours avec lui. C'était une taille monumentale que cette peinture. Elle est à peu près à cette taille-là, mais elle équivalait carrément à l'enterrement ornant au niveau extension. Donc il l'a transporté avec lui roulé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça voulait dire que chez lui, c'était à la fois une toile testament et une toile de provocation et d'explication. il faut écarter un peu les rodomontades et puis toutes les bravaches, tous les mots un peu bravaches de Courbet, qui naturellement, comme nous allons le lire tout à l'heure, montrait un peu sa puissance du verbe, et sa puissance de consommation aussi, y compris vinicole, ou de bière, à la brasserie Langlois, par exemple, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est comparer les éléments que nous avons vus au départ et les éléments qui sont nouveaux. Alors, tout de suite, j'ai entendu dire, il y a les deux arbres. Ah, eh oui. Vous remarquerez l'aspect quasi identique du système de construction. À la place du rétameur, on a d'autres personnes et d'autres animaux, j'allais dire. Mais nous avons bien deux arbres. Et qu'est-ce que vous voyez aussi de l'autre côté dans l'original, hein, c'est une photo extrait de l'original, c'est un agrandissement. Donc vous voyez un clocher. Vous voyez une falaise. Alors on peut situer tout de suite la falaise. Elle n'est pas loin de ma maison. C'est la falaise de Gradion qui domine la descente sur Notre-Dame du Chêne, vous voyez. L'école d'escalade. Parce que la photo et la peinture est prise dans le sens inverse, c'est-à-dire en direction d'Ornans. Donc ce que vous voyez là, c'est normalement une simulation du clocher d'Ornans. Et non pas l'inverse.
Mais là, ça me casse ou pas, là ?
C'est une composition faite à Sainte. Il n'est pas forcément à sa place. Mais un léger décalage et c'est bon. Voilà. Il faut se méfier effectivement de la perspective et du message en même temps qu'il veut communiquer. Donc on est déjà, c'est du réalisme, mais en même temps c'est un début de surréalisme parce qu'il y a un message. J'allais dire, non pas du surréalisme, de l'impressionnisme ou du symbolisme. L'idéal c'est encore le mot symbolique. Symboliste convient bien. Il a fréquenté Baudelaire et il y a des symboles qui vont être pris. Alors, où va-t-on trouver le vin ?
Dans l'attitude des personnages.
Dans l'attitude des personnages.
Qui sont avinés.
Tout à fait. Qui sont avinés. Oui.
En plus, ils sont sept comme les sept péchés capitaux.
Ils sont sept comme les sept. Alors, lui-même le dit. C'est pas lui-même qui le dit, c'est Proudhon. Ah, nous allons lire le passage maintenant.
Qui est de Besançon, lui.
Oui, c'était donc son ami. Mais son ami était, paradoxalement, alors qu'il était un croyant, Proudhon était beaucoup plus réservé dans la description de cette scène. Je l'ai lu le jour de l'inauguration. Gustave Courbet, l'artiste au violent paradoxe, vient de produire une œuvre dont le scandale aurait effacé tous ceux dont il s'est depuis 15 ans rendu coupable. Si le gouvernement n'avait pris soin d'y mettre ordre, en excluant purement et simplement de l'exposition 1863, cette peinture téméraire, vous voyez qu'il est sage, Proudhon, il marche sur des œufs lui-même, bon, qu'on se figure sur un grand chemin au pied d'un chêne béni. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 150 ans qu'il a écrit ça, et ça fait 150 ans qu'on ne s'était pas aperçu qu'il était béni. C'est quand même terrible. Terrible de penser qu'on avait affaire à un chêne béni et que personne ne s'en était aperçu. Il suffisait de lire Proudhon, et pourtant tout le monde l'a lu. Mais béni, entre béni et marquer sa bénédiction, il y avait une différence.
Mais ça change quoi ?
Ça change quoi ? Eh bien, vous allez voir. Très bonne question, hein. Ça change quoi ? Au pied d'un chêne béni, en face d'une sainte image, Alors, vous me la trouvez à Saint-Image? Vous la voyez? Eh bien, regardez bien, parce que dans les copies, il y a des choses anormales dans les copies. Ça veut dire que les copistes n'ont déjà plus compris ce que c'était que cette peinture. C'est terrible, parce qu'il y en a qui ont même copié la peinture juste après son élaboration. Eh bien, dans les copies, il y a des erreurs qui prouvent que le copiste n'a pas compris le sens de la peinture. Regardez bien la photo, parce que c'est le document, hein, ça. C'est la photo agrandie. La Vierge, comment elle vous paraît? Est-ce qu'elle est comme ça? Elle est comme lourde? Non. Est-ce qu'elle est comme ça?
Non.
Elle tient un enfant. Voilà.
S'il vous plaît, c'est la vraie de Notre-Dame du Chêne, qui est au chêne. Parce que la Vierge de Notre-Dame du Chêne, c'est une Vierge vigneronne, qui tient un enfant. Et ce n'est pas la Vierge couronnée qu'on a fait en 1800, je ne sais plus combien, qui est le retour. Je ne sais pas.
Ben venez à mes côtés, parce que c'est la réponse que j'allais apporter, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes passionné par le sujet, et c'est très bien.
Plus que passionné.
Alors restez avec nous.
Je me présente, Prost André, voilà. Écrivain.
André Proust. J'ai connu un André Proust, moi.
Ah oui, qui était.
Comme tu étais professeur.
Eh ben, c'est peut-être moi. J'étais professeur à la prison pendant 25 ans.
Ah bon, j'ai pas été en prison. vous n'avez pas fréquenté Pelouzet, par exemple?
Si.
Alors, Yves Mesmer, André Proust.
Oh, Yves!
Faut le faire, hein?
Il se fait à pleurer.
Alors, je m'excuse de rester assis parce que...
Mais oui, assieds-toi. Alors, moi, je
vais dire... Allez-y, parlez.
Non, non, mais tu dis aussi des conneries. Hein. Non, parce que j'ai le feu franc-comtois dans la peau. Bon, alors, bon. Si vous voulez, Courbet, évidemment, c'est la commune. Courbet, c'est un anticlérical notoire. Peut-être que là... Vous savez que 1800... Alors, j'ai pas la mémoire des dates. Notre-Dame-du-Chêne, tout le monde connaît. La Vierge que vous voyez là, qui est une Vierge à l'enfant, qui n'a rien à voir avec la Vierge impériale qu'on a mis, la Vierge couronnée, qui est le triomphe de l'Église. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Franche-Comté, on n'est pas gallican comme le reste
tout
de la France.
Fait, ouais.
On est de l'Église romaine...
Ultramontaine.
Ultramontaine. On a même à Ruré, pas là où j'habite, on a même un élève... Un évêque ultramontain.
Oui.
Qui est
natif des Peniers, non? Non.
Oui, j'habite à Vevey, c'est à côté.
Oui, oui. Oui. Hein, Donnet?
Non, c'est pas mon évêque. Attendez, ça me reviendra. J'ai de mémoire. Cet évêque, il est mort à Rome aux côtés du pape.
Ah ben. Et
il est en colère contre l'évêque de Besançon qui commençait, parce qu'on commençait à chanter des cantiques qui étaient en français. Et lui, il voulait la messe en latin. Il voulait la messe romaine. Ils étaient ce qu'on appelait les ultramontains.
Voilà.
Alors, donc, il y a un retour de
au-delà des montagnes.
Voilà, au-delà des montagnes. L'église de Rome. Parce que c'est ça qui caractérise aussi la Franche-Comté. La Franche-Comté est française. Hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais nous sommes des. Quand Louis XIV prend la Franche-Comté, les Francs-Comtois, c'est moi qui dis ça. Hein, ils disent nous sommes français, mais nous ne sommes pas des Francs. Des Français, des Francs comme toi, nous sommes des Francs-Comtois. Ça, c'est mon côté. Et alors, donc là, on est dans l'église romaine, exactement la caricature que ne veut pas Courbet, qui est de la commune, qui est anticléricale, qui est pour une école laïque. Il faut voir ce qu'il a écrit sur l'école laïque.
Non, mais on va le voir.
Oui, alors là, excusez-moi, faut pas que
je te coupe. Non.
Et alors là, la Vierge que vous voyez là, c'est la Vierge.
Faut
pas toucher. Si vous allez à Notre-Dame du Chêne, bon, on me l'a montré, hein, voilà. La Vierge qui était dans le chêne, c'est celle-là. Et là, il a raison, Gustave. C'est la Vierge du chêne. C'est pas le truc couronné qu'on a mis sur la tête, là, qu'une Vierge qui n'a plus d'enfant Jésus, qui n'a plus rien à voir avec les Vierges vigneronnes du coin. Parce que dans le coin, Villafon et compagnie, il y avait énormément de vignes. C'est des vignerons.
Je vais reprendre. Hein. André, mais tu pourras intervenir quand tu veux. Hein.
Oui.
Parce que ça m'étonnerait qu'on soit en contradiction.
Je ne crois pas. Mais moi, je suis assez pampant.
Oui. Mais moi, je vais être modérateur. Bon, alors, nous avons effectivement une Vierge au raisin qui sera découverte. Nous allons voir toute cette histoire par redécouverte. Par Cécile Mille, qui est fille de vignerons, dont d'ailleurs nous sommes descendants un peu au niveau familial. Bon. Alors, maintenant, il faut que je me remette dans le bon sens, oui. Je me rassieds, je m'excuse. Regardez bien, et là, c'est extrêmement important, on a parlé du symbole du vin. Vous avez oublié un élément essentiel, madame. Et vous allez peut-être être aidé par d'autres personnes. Qu'est-ce qui peut encore symboliser le vin que vous avez vu de l'autre côté ? Le chien. Et regardez comme il n'est pas content du tout. Il flaire pas là. Il aboie. Il gueule. C'est ce qu'on appelle un roquet. Vous savez pourquoi on appelle les chiens qui gueulent des roquets ? Parce que le roquet, c'est le chien qui accompagne le pèlerin. Quel est le symbole du pèlerinage de Saint-Jacques ? Quel est le saint qui représente le pèlerinage avec ses coquillages accrochés ? Non. Plus ? Oui, je l'ai entendu. C'est derrière, premier prix. Saint-Roch. Et Saint-Roch est toujours avec le chien qui l'a guéri en léchant le bubon de la peste et qui le nourrissait avec un pain dans la bouche. Regardez bien maintenant, vous allez voir les statues de Saint-Roch autrement. Vous allez tout comprendre sur le roquet qui a été nourricier de Saint-Roch. Il tient un pain dans la bouche. Le pain correspondant au vin, naturellement, pain et vin. Et donc, vous avez ici le pain avec le chêne qui est le premier arbre de la nature à avoir nourri les humains et les animaux. Les animaux, les sangliers. Mais les humains aussi. Et on a même fait, avec les glands, encore pendant la guerre, du café. Le chêne est nourricier. Ça correspond, c'est le premier pain. Donc, le vin, regardez bien là. Qu'est-ce que tient le faux sou. Le faux sou. Et puis alors, vous avez donc, je m'excuse encore, regardez bien l'attitude de ce monsieur, un vieux vigneron, qui se marre. Il se marre de la selle. Regardez bien la dame. Oui, elle prie qui ?
Pour le salut des âmes.
Oui, elle prie pour le salut des âmes, oui. Et elle prie en quelle direction ?
La terre.
Elle regarde la terre, oui, elle s'incline. Ah oui, ça c'est très bien. Vous savez, je vous emmène où je veux, là. Hein. Je vous emmène directement là où je veux. Et puis, alors, vous vous prêtez tout à fait au jeu. Bon, mais est-ce qu'elle regarde la Vierge ?
Non.
Ah, elle ne regarde pas là. Donc, elle regarde le spectacle. Mais alors, comment peut-elle prier en regardant l'âne ? Et c'est là la découverte du siècle. Qui ne figure pas dans l'expo. Ça en fait beaucoup des découvertes du siècle, vous allez voir.
Elle a peur de ce qui va
arriver. Alors je vais vous lire déjà une chose, un texte de 1812 qui a tout simplement initié la peinture que vous avez derrière vous et que vous allez voir après en copie. C'est une étude sur l'âne portant des reliques par un Pierre-Louis Solvay en 1812. L'âne portant des reliques, c'est une fable d'Ésope qui a été reprise par La Fontaine. Une aventure arrivée à Piron offre un trait qui devient ici très piquant. Alors Piron, c'est un poète du XVIIIe siècle qui, au niveau Courbet, le double. En pornographie, en érotisme, en allusion oiseuse et poétique à la fois, Piron, c'est le maître que vous pouvez taper sur Internet. Vous tapez Alexis Piron et vous avez l'ode à Priap qui lui a coûté sa place à l'Académie française parce que Louis XV, comme 100 ans plus tard pour Courbet, l'empire de Napoléon III va le saborder complètement, et bien nous avons le double de Courbet en Piron 100 ans avant. Alors, je vous invite à lire, si vous vous accrochez, hein, l'Aude à Priap. Vous allez, ne lisez pas ça au début de la nuit, parce que vous allez avoir des rêves langoureux. Donc, une aventure arrivée à Alexis Piron offre un trait qui devient ici très piquant à cause du rapport qu'il présente avec cette fable, pourvu cependant qu'on dénoie toute idée de comparaison entre ce poète célèbre et le ridicule personnage qui en est le héros. Alors voilà l'histoire. Piron était depuis peu à Paris, lorsqu'en revenant un jour du bois de Boulogne, je pense qu'il devait déjà... Il s'assied sur un banc, attendez bien, de la barrière de conférence. Comment ça s'appelle ça?
Retour de conférence.
Alors ces barrières de conférence, ces barrières tout court, c'était à l'entrée de Besançon, de Paris. Il y avait des portes, comme toujours encore maintenant, qu'on retrouve sur le boulevard. Il y avait des portes avec des barrières d'octroi, c'est-à-dire qu'on payait des impôts à chaque fois qu'on passait. Et cette barrière de la conférence, c'était la barrière des fermiers généraux où on payait le plus d'impôts, puisque c'était la route de Versailles, donc du palais du roi. Et cette barrière, comme toutes les barrières qu'on a ensuite appelées propylées du nom des colonnades de l'Acropole, ont été restaurées et reconstruites sous forme de temple, si on l'en veut, par Claude-Nicolas Ledoux, le fondateur des salines d'Arquesnan et de la cité imaginaire de la forêt de Chaux, là où il y a les chênes à Guy et les chênes à Vierge. Bizarre, n'est-ce pas? Or, la barrière de la conférence, qui était un symbole de l'Ancien Régime, a été attaquée et brûlée le 12 juillet 1789, deux jours avant le 14, par les Parisiens, parce qu'ils ont envoyé le symbole de l'Ancien Régime. Vous voyez jusqu'où ça allait? La barrière de la conférence. Ah, il est attablé là, sûrement en train de boire dans une goguette, et j'insiste sur le mot parce qu'on va l'aborder après, une goguette. C'est pas un hasard, parce qu'on aura les curés en goguette tout à l'heure. Ils sont là. Alors maintenant, revenant du bois de Boulogne, il s'assied sur un banc à la barrière de la conférence. Aussitôt, alors regardez bien, on va singer. Dommage qu'on n'a pas le chapeau là. Aussitôt, il se voit salué par tous les passants qui entraient et sortaient. Donc, alors, imaginez qu'il est assis devant un verre de bière ou de vin, et puis on passe, et puis à pied, à cheval ou en voiture. Et le poète dotait son chapeau plus ou moins bas, suivant la qualité des personnes. Lui répond, il retire son chapeau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oh, oh, disait-il en lui-même, je suis beaucoup plus connu que je ne pensais. À la fin, l'exercice du chapeau devenant très fatigant, il l'ôta tout à fait, se contentant de s'incliner devant ceux qui le saluaient. Une vieille femme survient, qui se jette à ses genoux. Regardez bien la peinture en même temps, ou la photo, disons. Les mains jointes. Il veut la faire relever. Elle ne l'écoute point. Il se baisse, prête l'oreille. Il entend qu'elle marmotte quelque chose entre ses dents. C'était un Ave Maria qu'elle adressait à une image de la Vierge placée précisément au-dessus du banc où il était assis. Vous avez compris? L'âne porteur de reliques. C'est pour illustrer... L'âne porteur de reliques est d'ailleurs là, et puis je vais vous montrer. Le voilà. Et regardez bien, messieurs, dames, on va faire passer, mais vous allez voir un personnage qui s'amuse, qui rit, et une autre qui a de nouveau les mains jointes. Vous voyez, sur le côté, il y en a un qui rit à la façon de... Et puis, l'autre qui prie.
Bonjour.
Vous allez retrouver ça aussi. Alors, encore en plus évident, Ça, c'est donc Granville qui a fait, c'est un genre de daumier, Granville, à l'époque. Là, c'est dans les fables d'Hetzel, en original. Ma photocopieuse déconne complètement, je m'excuse, c'est pas très lisible. Mais regardez bien. Regardez la bonne dame et comparez. Comparez bien. Vous la voyez à genoux et vous voyez quelqu'un de debout derrière. Et donc, imaginez la relique avec un arbre. Et bien l'arbre, vous l'avez là. Faites passer là. Regardez bien aussi. Et vous avez en plus l'arbre. Vous voyez ? Hein ? L'arbre, il est bien là. Et puis, on a les reliques. Donc, dans le reliquaire, imaginons que le reliquaire est dans l'arbre. Nous avons... Alors, quand on raconte, j'allais dire... Oui. Va circuler là. Alors, celui-là est intéressant parce qu'on voit la Vierge porteur d'enfants. Vous voyez ? La Vierge porte son enfant. Naturellement, il n'y a pas forcément la grappe de raisin, quand même pas non plus. C'est une illustration nationale. Mais alors, ce qui est remarquable, vous allez voir dans l'indice, la première peinture de retour de la conférence, vous allez voir que le paysan, avec sa pioche, il ne garde pas son chapeau. Vous allez voir dans la première copie, non, ce n'est pas la copie, c'est l'original qui a précédé le retour de la conférence. Vous allez le voir, l'autre est bien à genoux, regarde bien le spectacle et non pas la Vierge, et il retire son chapeau. Donc nous avons là l'explication réelle. Dans l'imaginaire de Courbet, Courbet avait fait ses humanités au séminaire d'Ornans jusqu'en rhétorique en 1937, et en pension, parce que le séminaire s'arrêtait en 1933, on verra pourquoi après. Bon, il connaissait par cœur ses femmes, notamment celle-là.
C'est peut-être religieux, qui me permettra d'intervenir encore.
Oui, vas-y.
C'est plutôt dans l'imaginaire. Vous avez ici, excusez-moi, vous avez ici la représentation d'un sabbat, qui est organisé par les prêtres, qui est d'un chêne, le sabbat qui est dans une vallée. Je parle des sabbats franc-comtois. J'ai un petit peu étudié les sorcières. Je suis en train d'écrire un roman sur les sorcières. Qu'on a retrouvé à Cadmen, d'ailleurs. C'est intéressant. Alors, vous avez ici la danse sabbatique. Vous voyez le dernier ici, vous voyez. C'est la danse. Le sabbat commence par des danses.
Oui.
Sous des chaînes. La moquerie, parce qu'il y a la Vierge. Donc, on est toujours dans l'opposition, la contradiction. Donc, vous regardez le mouvement. Si vous regardez le mouvement. Si vous regardez le mouvement des prêtres avec les chapeaux, regardez le premier.
Oui,
vous voyez tout à fait une arabesque, on va appeler ça comme ça, sabbatique.
Oui, oui. Alors, une amplification avec l'âne.
Alors, l'âne, par contre, il ne fait pas partie du système, parce que le système, voilà, l'âne, il est en fonction d'ici, c'est la crèche qui est en opposition.
Oui.
Moi, je vois les choses comme ça. Ici, vous avez. Alors. Qu'est-ce qu'on remarque aussi ? Ils ont des chapeaux. C'est ça qui crée l'autorité.
Oui.
Et c'est ça qui crée aussi leur sorcellerie. Parce que ce n'est pas des prêtres, c'est des prêtres de Satan, c'est des sataniques. Hein. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Mais vous voyez, moi je vois les choses comme ça. Et puis ici, parce que peut-être qu'il était athée, en tout cas, Gustave Courbet, mais c'était quelqu'un quand on voit le
désespéré, hein.
Quand on voit ses peintures, c'est pas sûr. Parce que quand on voit ses peintures, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'âme humaine.
Exactement.
Et c'est quelqu'un qui retrace des choses de la nature. Il vit la nature. Il n'est pas. Il lui donne une âme. C'est pas.
Je vais me permettre.
Et alors, attends. Regardez.
D'aller dans ton sens avec le texte.
Oui, regardez ce personnage-là. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus de sa tête ?
Une auréole.
Une auréole. Qui c'est le saint ? C'est lui. Et en même temps, il a une tenue rigolarde puisqu'il tient la panse.
Oui,
donc
oui.
Là, on a en tout cas, c'est un... Et il ressemble, en effet, le bâton, l'auréole, la tête un peu comme ça d'un bienheureux, c'est peut-être Saint-Roch, oui, mais c'est surtout celui... C'est Saint-Jacques. C'est celui qui... on va en pèlerinage, ils chassent les démons, etc. Elle est démon, et voilà, c'est cela. Et celle-ci, bah, elle est, bon, elle n'est pas avec eux, mais elle regarde l'âme. Il y a quelque chose de la crèche ici. Il y a toujours des contradictions. Gustave Courbet nous fait réfléchir entre qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que le diable, qu'est-ce que c'est que... Il nous fait parvenir dans le sens du sacré.
Alors, André, je vais, parce qu'il y a des voilà. spectateurs qui attendent pour continuer. C'est pas du tout un reproche. Hein. Oui. Alors, donc en face d'une scène, sous le regard sardonique du paysan moderne, une scène d'ivrogne appartenant tous à la caste la plus respectable de la société, au sacerdoce. Là, le sacrilège se joignant à la soulerie, le blasphème tombant sur le sacrilège, les sept péchés capitaux, c'est donc Proudhon qui en parle, l'hypocrisie en tête défilant en costume ecclésiastique, une vapeur libidineuse circulant à travers les groupes, enfin, par un dernier vigoureux contraste, cette petite orgie de la vie cléricale se passe au sein d'un paysage à la fois charmant et grandiose, comme si l'homme dans sa plus haute dignité n'existait que pour souiller dans son indélébile corruption l'innocente nature. Voilà en quelques lignes ce qu'essaie avisé de représenter Gustave Courbet. Et après, il parle du Christ sur le calvaire, justement. Alors, j'aborde le dernier moment avant qu'on aille de l'autre côté, là, et de laisser la liberté de passage. Je m'en excuse d'ailleurs auprès des gens.
Moi, je trouve
oui, là, chacun, on pourra apporter son point de vue là sans aucun problème, parce qu'on a beaucoup de copies. Hein. Bon, ce qui est essentiel, c'est que nous avons un âne ici. L'âne, c'est la représentation du dieu Dionysos. C'est l'âne phrygien, c'est l'âne qu'on appelle les Silènes. Les Silènes étaient des dieux demi-hommes, demi-dieux, qui étaient... très vénéré en Phrygie. C'est l'épisode, par exemple, vous le taperez sur Internet, du roi Midas qui a des grandes oreilles, avec le roi Crésus. Le roi Crésus fait partie de ces épisodes. D'ailleurs, on a une fable même où l'âne produit de l'or chez les autres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a tout un lien orgiaque des bacchanales qui est représenté par l'âne qui est avant tout un sexe. Et il ne faut pas l'oublier. L'âne, c'est le sexe par excellence. C'est la nature. C'est-à-dire que l'âne représente la vie, la conception et la génération des bêtes et des humains. Si on n'a pas compris cette symbolique de l'âne, là, on n'a rien compris à la peinture non plus et aux allusions que Courbet veut faire. C'est, je vous dis, une peinture message, c'est quasiment une peinture à clé. Voilà, donc vous avez l'âne, c'est aussi la représentation de l'ivresse, naturellement. La preuve, c'est que, et paradoxalement, l'Église chrétienne a pacifié l'âne. L'âne est de tous les épisodes de la vie du Christ. La crèche. Alors, Dionysios était fou. Il était atteint de folie, non pas rabique, non pas de la rage, parce que la rage, c'est la phobie de l'eau. L'âne a la phobie de l'eau, il faut le savoir. Pour ça que quelquefois l'âne, sur des routes goudronnées par temps chaud, s'arrête pile, parce qu'il croit qu'il a une flaque d'eau devant lui. L'âne a la phobie de l'eau. Par contre, les ânons n'ont pas la phobie de l'eau. Alors, il y a un épisode dans la mythologie grecque essentiel, c'est pour expliquer la constellation des deux ânes, qui a donné par ailleurs, vous le savez, des noms au cabaret, aux goguettes... connu encore maintenant sur Montmartre. Eh bien, l'âne, Dionysios, complètement fou, s'en va chez son père dans les chaînes de Dodone, au-delà des marais de Lerne, en Grèce. Seulement, il a besoin de traverser les marais. Et, naturellement, il ne sait pas comment faire, parce qu'il n'a pas de moyen de locomotion. Alors, il avise, il trouve deux ânons. Il chevauche un ânon, et l'ânon, innocent, traverse le marais et l'emmène chez les chaînes de Dodone, des chaînes oraculaires, et là, il est guéri de sa folie. L'air de rien, ces deux anneaux font partie de la constellation de la crèche dans le ciel, qui existe toujours. Ça s'appelle la constellation de la crèche. C'est à la limite de la constellation du cancer. C'est sur la carapace du cancer. Bon. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet âne, il existe vraiment dans la crèche, dont les premières formations datent du 5e, 6e siècle, et pérennisées par Saint François. Mais encore plus intéressant, c'est l'âne qui porte la Vierge et l'enfant Jésus jusqu'en Égypte. Et c'est l'ânesse avec son ânon qui portera le Christ à l'entrée au rameau, à l'entrée à Jérusalem. Mais pas une entrée de cette manière. Voilà le blasphème. La solution, elle est là. Courbet n'est pas un blasphémateur, ce sont les curés qui blasphèment la Vierge Marie qui a été portée par l'âne en Égypte. Voilà, il fallait inverser le produit. Et les curés le savaient très bien, mais ils n'ont pas voulu le comprendre. Certains curés, parce qu'il y en a d'autres, comme le curé du secteur, et Monseigneur Mathieu, le cardinal, a ri plutôt de cette peinture que ne l'a critiquée. On passe à la pièce à côté. Et ils sont bien sept. Ils sont bien sept. Il y a des... C'est moins évident derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord, donc la position sur l'âne ne varie guère, mais vous avez bien une Vierge à l'enfant. C'est essentiel. Et quand je vous dis que les copies n'ont rien compris, ils auraient dû au moins avoir la peinture d'initiation. Vierge à l'enfant dans le chêne. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, regardez la vieille dame. Elle est bien en prière, non pas devant la Vierge, mais elle prie devant le scandale, comme dans les feuillets de l'âne porteur de reliques, à genoux, exactement dans la même attitude. Et regardez, il lève son chapeau. C'est un détail que personne, à ce jour, n'avait remarqué et qui est essentiel pour comprendre la relation entre l'âne porteur de reliques, les symboles qu'il portait et la peinture de Gustave Courbet. C'est une clé. Une clé qu'il fallait ouvrir. Nous l'avons ouverte. Alors regardez les copies là, vous allez voir que nous avons une Vierge de Lourdes. Parce qu'à la même époque, arrive dans une grotte, pareil. C'est la même symbolique. La Vierge de Lourdes, c'est dans une grotte. Au lieu d'être un arbre, c'est un rocher. Mais vous remarquerez l'équivalence. Le même Courbet travaille avec des rochers. Et il travaille au niveau des grottes. Il est passionné par les grottes souterraines, par les abris sous roches. Donc nous avons des équivalences intéressantes que j'analyse bien dans mon site mythistoria.org. Mais alors regardez, le copie ici refait bien le clocher qui n'est pas là. Mais la Vierge, elle a les bras ouverts à la façon d'une Vierge, pas de Lourdes, puisque Lourdes c'est les mains jointes, mais plutôt de la Salette ou des autres apparitions. Là, par contre, c'est presque une Vierge de Lourdes, là, plutôt mains jointes. Mais il n'y a toujours pas d'enfant. Alors, par contre, on a un détail des falaises qui sont indéniables. On a bien et naturellement, regardez, à chaque fois, vous avez quand même gardé la dualité des arbres. Remarquez une chose aussi, les touffes d'arbres existent toujours à Notre-Dame-du-Chêne derrière la statue. Et il y a un arbre dont on ne parle jamais, qui est l'arbre mortuaire par excellence, qui n'ont pas le cyprès, mais l'if, qui est un conifère quasiment noir d'aiguilles, et qui représente les mêmes valeurs que le cyprès. Et si vous allez à Notre-Dame-du-Chêne, vous trouverez bien un mélange de chêne et d'if. C'est extrêmement important parce que c'est des sites en général très celtiques, très gaulois. L'arbre de l'if étant un arbre du suicide des Gaulois, dans la guerre des Gaules particulièrement. Voilà, donc vous regardez, vous avez encore le temps aussi de lire s'il faut. Ou vous reviendrez, parce que je crois que ça en vaut la peine de lire les panneaux. Je ne peux pas me permettre de tout faire. Voilà. Et donc là, vous avez un original de la photo. d'une des photos. Il y en a plusieurs. Hein. Alors nous allons progressivement aller dans ce qu'on appelle une deuxième partie, avec une zone, j'allais dire, attends, quasiment neutre, qui nous reposera un petit peu.
Puisque l'œuvre a disparu complètement,
oui.
Elle a été brûlée.
On
pense qu'elle a été brûlée. Quelle est l'œuvre qui présenterait le plus l'original?
La photo.
La photo qu'on a vue tout à l'heure.
Oui. On en a plusieurs de photos, il me semble.
Et qui est reconstituée à partir de dessins, à partir de quoi?
On a fait une photo. Oui, mais c'est de la vraie peinture. Oui.
Mais si elle a disparu.
Elle a disparu que tardivement. Hein.
Ah, je croyais qu'elle avait été.
Non. Maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, il l'a conservé, la peinture de retour de vent. Il l'a gardée comme un trésor. Parce que, apparemment, c'est dit dans le livret. Par ailleurs, je vous invite à acheter, parce que ce livret est vraiment une source d'informations en général très bonne, d'autant que certaines ont été copiées, mais enfin entre guillemets, on l'oubliera. Il y a un seul passage où il est erroné, mais c'est un passage sur Monseigneur Gousset. Je tiens à vous mettre en garde, c'est un passage erroné. Donc quand vous trouverez dans la plaquette, dans le livret, une note à propos de Monseigneur Gousset, on dit qu'il a été professeur de Gustave Courbet, c'est totalement faux. Il était professeur de philo au grand séminaire, donc professeur de théologie plutôt. Il n'a jamais été au séminaire d'Ornon. C'est la seule chose, par contre, remarquable comme étude. Donc je vous conseille, achetez, ça coûte 18 euros, c'est... Ça vous permettra de vous rappeler tout ce que je vous rappelle.
Et par rapport à l'enterrement à Ornon, on retrouve quand même toujours la moquerie sur les juges, le chien, les falaises, on retrouve quand même des éléments qui sont communs. Est-ce qu'on va retrouver après tout le monde le plan d'un tableau.
Non, mais c'est très précieux ça.
J'en ai deux.
Très précieux. Ah oui. Oui. Bon, on continue. Donc là, vous avez une période, j'allais dire, un peu de repos pour tous. Il faut y passer 5 à 10 minutes quand même, et vous reviendrez, j'espère, approfondir cette exposition en lisant les commentaires qu'a construit Karine Joly, que je félicite encore parce que c'était vraiment extraordinaire ce qu'elle a fait. Donc, je parle du Saint-Onge. Oui, alors, cette peinture, il faut la... Nous sommes en 1862. Alors là, je vous demande de bien fixer votre attention. Il y a des choses extraordinaires que je vais vous dévoiler. À mon sens, extraordinaires. Je dis à mon sens. Ça peut être banal pour peut-être d'autres, mais enfin, on verra bien. Nous sommes en 1862. Il faut savoir, et ça a été très bien décrit par Madame Alix Le Borgne, donc dans le livret, ce que c'est qu'une conférence. Depuis des siècles, et des siècles, j'allais dire amen, périodiquement, l'archevêché commanditait des conférences dans les doyennés existants. C'était 7 à 15 curés qui se réunissaient pour parler de la foi, des futurs dogmes, parce que le dogme n'était encore pas appliqué, on attendra justement la période de Courbet et de Pie IX pour que ça soit élu avec l'infaillibilité pontificale. Donc, pour discuter de l'aspect dogmatique de certaines circulaires papales, épiscopales ou du doyenné. À l'issue de ces conférences et des actes de foi étudiés, on préparait un bon repas, c'est-à-dire que les servantes ou les sœurs des prêtres ou les familiers des prêtres, en général des dames, m'étonnerait que ce soit des demoiselles.
Des vieilles demoiselles.
Des vieilles demoiselles. Oui, merci Dominique.
Des jeunes filles prolongées.
Des jeunes filles prolongées, si on veut, oui. Non, mais attention, ne soyons pas critiques du tout là-dessus.
Non, non.
Non, non. Mais ça pouvait être aussi des religieuses, hein. Quand même. Donc, préparez un bon civet de ci ou une terrine de ça, un dessert de ci ou un fromage de ça. Si bien que même les archevêques s'offusquaient à un moment donné du nombre de plats, il y avait 5 à 6 plats de suite. À la fin, il faut se mettre dans l'air du temps. Les historiens actuels, y compris dans notre opuscule, dans le recueil que nous avons, ne se mettent pas dans le temps. Un historien véritable ou qui veut se réclamer de l'histoire doit se mettre dans la peau du temps et de ses jugements d'époque. C'était les repas à la Bria Savarin. Donc et c'est ce qu'on a envie d'ailleurs avec des amis de reconstituer. On a envie de reconstituer une goguette. Nous allons voir plus haut ce que c'est qu'une goguette. Et sachez d'abord qu'il y avait 500 goguettes à Paris où on baffrait, littéralement, on buvait, hein, on parlait de sainteté en même temps que de...
Bon. C'était l'origine des guinguettes ou pas?
Ça n'a rien à voir avec les guinguettes. Mais finalement, ça s'est recoupé et c'est devenu des cabarets, quoi. Alors, les brasseries, les cabarets. Alors, il y avait énormément de chansonniers, mais on en reparlera plus haut, hein, au moment de la grande beuverie des curés en goguettes. Alors... J'en reviens, moi, à ces dates. 62, Courbet décide de partir, mais il a déjà esquissé son projet depuis longtemps. Il a même peut-être amené déjà une partie de la peinture. Il s'en va dans le Saint-Onge, qui était réputé beaucoup plus anticlérical que sa région Franche-Comté. Mais ça, on le pense, mais rien n'est sûr. Il faut des faits objectifs. Les faits objectifs sont les suivants. En 1863... Le cardinal Mathieu, qui est par ailleurs un esprit très libéral, préconise une des conférences pour rassembler de l'argent sous forme quelconque pour ériger à la place de l'arbre disparu une chapelle, au moins sur le site lui-même le dominant. Nous sommes en 1863. Et pile poil, la même date coïncide avec la peinture, le retour de la conférence. Si bien que je ne vais pas rentrer dans les diatribes, je ne vais pas me faire accuser comme on est enregistré de certaines choses, mais il y a des œuvres encore maintenant. Vous savez qu'il y a des gens qui ont profité des bonnes œuvres, y compris à la télévision, pour se sucrer eux-mêmes. Gustave Courbet laisse peut-être entendre que ce retour de la conférence, dans ces conférences, on mangeait tellement bien et on buvait tellement bien qu'on a peut-être un peu dépensé en élargissant un peu les budgets sur ce qui pouvait être récolté. Mais ça, c'est des allusions possibles. Par contre, les dates, ça ne pardonne pas. 1863, nous sommes le 12 juillet 1863, et le 12 juillet, il y a la première pierre qui est posée de la chapelle de Notre-Dame-du-Chêne. En même temps, paraît à l'exposition, ou voulant paraître à l'exposition, elle est refusée, la peinture, le retour de la conférence. Ça, c'est objectif. Les déductions autres, on peut les faire. Mais, rien ne le prouve. Par contre, le 12 juillet, nous sommes... 4 jours, il me faut le texte de la Vierge du Vieux Chêne, dans mon sac. Nous sommes 4 jours avant la fête de Notre-Dame du Carmel. Alors, ça c'est encore une découverte. Je suis génial, je me rends compte là, il suffit que j'en parle. Hein. Vous ne me le dites pas assez.
Une petite parenthèse.
Oui,
dis-moi, André. Son départ, parce que je connais très bien, c'est une petite baraque là-bas. Hein. Oui. C'est un pays hyper protestant. Souvenez-vous du siège de La Rochelle par,
tout à fait.
Ils ont été convertis au catholicisme à coup de canon et à coup de fusil.
Voilà.
Le siège de La Rochelle a été épouvantable. Donc ce sont des protestants qui protestent, des vrais.
Et qui ont une liberté de pensée.
Et qui ont une liberté de pensée, c'est des républicains, parce qu'ils sont protestants.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est, j'exagère pas. Pourquoi Courbet parle là-bas, mais il est en plein, dans son
protestant.
Il est en plein pays qui va réagir contre le,
alors,
contre
le
cléricalisme.
Tout à fait. Alors, nous sommes le 12 juillet, je répète, nous sommes trois jours avant la fin de Notre-Dame du Carmel. Alors, Notre-Dame du Carmel, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire là, parce que j'ai les documents d'appui. Notre-Dame du Carmel est une Vierge Mère invoquée depuis le Moyen-Âge par des moines parce que, qui portaient ce qu'on appelle le scapulaire. Le scapulaire, c'était un manteau monastique. Ensuite, c'est devenu une sorte de protection, c'est un carré d'étoffe. Un carré d'étoffe qui est devenu une sorte de protecteur et de donateur d'indulgence. C'est-à-dire que, à partir du moment où on portait le scapulaire, on allait tout droit au paradis, on était quitte de passer au purgatoire, et on recevait des indulgences monnayant certaines sommes. C'est ce qui a nourri un peu le scandale des indulgences avec le luthéranisme. Bon. Et le simonisme, malheureusement. Donc, quand on a l'âne porteur de reliques, il faut savoir aussi que si on portait des reliques à travers les villages, c'était pour récolter de l'argent. Et ça, il faut bien le mettre dans sa tête. C'était pas innocent, entre guillemets. Bon. Mais, quand on lit le poème de Max Buchon de 1837, au moment où Gustave Courbet a 17 ans ou 18 ans. 18 ans. Ce poème, c'est l'histoire d'un soldat, d'un futur conscrit qui est convoqué pour aller combattre à la guerre, entre guillemets. Donc il a besoin d'être protégé. Sa mère, en larmes, fait avec lui une neuvaine avant qu'il parte et va lui donner un scapulaire pour qu'il soit protégé de la mort. Je lis le passage. Voilà. Henriette et Victor, nous sommes devant le chêne de Notre-Dame, hein, je vous le dis tout de suite, près de Mézières. Henriette et Victor, Henriette c'est la mère, Victor le fils, victorieux naturellement, et il sortira victorieux, vous le saurez tout à l'heure, si vous arrivez à suivre, à pas silencieux, s'avance et devant la Vierge du Vieux Chêne commence à genoux la fervente neuvaine. Et à un moment donné, ils invoquent Notre-Dame du Carmel. Alors, voilà la lithographie que vous allez voir en plus grand tout à l'heure. On y découvre le soldat debout et la vieille dame à genoux, comme nous l'avons vu dans le retour de conférence, nous retrouvons le même schéma, priant, lui pleurant, et elle priant devant le chêne où il y a une grille. Nous allons le voir plus précisément au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Notre-Dame du Carmel est vénérée le 15 et 16 juillet, donc trois jours après l'instauration de la première pierre par le cardinal Mathieu. Mais encore plus intéressant, c'est de relater la création, la fondation de ce scapulaire. Nous sommes au XIIIe siècle après Jésus-Christ. La Vierge du Carmel, du Mont Carmel, apparaît à Saint-Simon Stock. Saint-Simon Stock est un moine. Il porte le surnom de Stock en anglais, c'est un moine anglais. Et Stock en anglais, ça veut dire le tronc d'arbre. Et vous ne savez pas où habitait ce Simon Stock quand il a eu son apparition ? Il habitait dans le creux d'un tronc d'arbre. Oui, ben peut-être. Mais si vous regardez bien, vous allez voir cet arbre creux dans la lithographie de Gustave Courbet. Il n'était pas idiot, Gustave Courbet. Regardez le creux de l'arbre. Je vais passer partout. Vous voyez la Vierge au-dessus. Vous voyez le conscrit debout. La vieille dame à genoux. Là, cette fois, elle prie la Vierge. Et regardez bien l'arbre, forme de triangle d'ailleurs. Regardez. Vous voyez bien ? Vous le verrez en plus grand. C'est criard de vérité. Alors, en plus, nous sommes dans une symbolique de l'arbre et nous verrons, si nous avons le temps, je dis bien, si nous avons le temps, le fait que dans la forêt de Chaux, au moment où on creusait des alvéoles dans l'arbre, c'était un rite qui appartenait à une secte, pas une secte, une confrérie, excusez-moi. Le mot est mauvais, secte. C'est une confrérie tout à fait reconnue, mais républicaine d'esprit et catholique de fait, qui s'appelait les bons cousins charbonniers, et qui pratiquait la fabrication du charbon de bois, et qui était une communion, une confrérie réservée avec des rites semi-maçonniques, si on veut dire, où le triangle était très important. Voilà. On continue.
Une confrérie maçonnique, il y avait beaucoup de personnes dans le Jura, notamment.
Notamment. Ah, une petite chose quand même, anecdotique. Le Saint-Onge, c'est un nom gaulois qui vient du peuple gaulois des Saints, des Santons. Des Santons. Or, alors c'est là que ça devient intéressant avec l'âme porteur de reliques. Les Santons, ça vous dit quelque chose aussi? Ça veut dire que la prêche. Alors, le mot gaulois Santone, Santo, en gaulois, ça veut dire ceux qui suivent le chemin. C'est amusant. Ceux qui suivent le chemin. Ceux qui suivent les... Ça a donné la même racine que sentier. Tout à fait. La sente, le sentier. Donc vous imaginez un peu l'âne. Alors on a un beau jeu de mots à l'époque de linguistique là. Même si les étymologies. Parce que senton, ça veut dire petit saint. Donc les reliques. Les sentons de Provence, c'est des petits saints. Santoun.
C'est marrant, c'est que c'est un peuple gaulois de Suisse.
Ah oui, tout à fait, oui, qui vient à cause de Mediolanum.
Oui, c'est ça.
Saint. On y va.
Chassé par les Germains.
Alors, c'est là que maintenant je vais effectivement aborder la confrérie des bons cousins charbonniers. Vous avez ici, naturellement, la salle de Notre-Dame-du-Chêne, face à une analyse de la peinture. Ce que je vous racontais, vous l'avez là. Effectivement, c'est préparé. Vous remarquez bien, nous sommes en 1837, donc. La Vierge est bien derrière sa grille. Donc, comme la Vierge de Notre-Dame-du-Chêne. Alors, ici, vous avez le conscrit et sa mère, naturellement, qui fait une neuvaine et puis qui invoque Notre-Dame du Carmel en lui donnant un scapulaire. Il va revenir victorieux, naturellement, bardé de médailles. Le poème est magnifique. Il faut se mettre dans la peau de l'époque. Je souhaite une seule chose, moi, c'est que ce poème soit réédité avec des images adéquates, entre guillemets, qui marquent bien ce culte à la Vierge Mère et à Notre-Dame du Chêne. Bon, ici, vous avez une explication détaillée de la peinture que nous avons vue. Vous remarquerez bien que la Vierge est bien analysée avec porteuse de l'enfant Jésus et naturellement porteuse de la grappe de raisin qui est essentielle puisqu'elle tient, on l'appelle la Vierge du Chêne et du raisin. Notre-Dame du Chêne, ce n'est pas suffisant. Nos cantiques, quand on va en pèlerinage, c'est Notre-Dame du Chêne et du raisin. Il y a un poème, peut-être fait par Francis James, qui parle de Notre-Dame du Chêne et du raisin. Et on retrouve quelques allusions comme ça en France, avec d'autres Notre-Dame du Chêne aussi, qui sont associées en même temps, j'allais dire un peu comme le pain et le vin, Notre-Dame du Chêne et au raisin. Alors vous avez devant vous là le détail de les apparitions. Alors je vais vous les raconter rapidement. Nous sommes en 1803. le Congo, nous sommes à l'ère napoléonienne. Napoléon commence à peine, après son coup d'État et son consulat, il commence à régner sur l'Europe entière. Il a besoin de se réconcilier avec l'Église pour pouvoir entamer un processus de ralliement des prêtres, des évêques. On a parlé d'ultramontanisme tout à l'heure et de gallicanisme. Nous retombons dans le même système. Il a besoin du pape, donc il aura besoin d'évêques ultramontains, pour pouvoir rallier ces évêques à la cause papale. Et inversement, notamment, vous savez que Pie VII a assisté à son sacre. Donc, comme un empereur, comme Charlemagne, par exemple, il l'a marqué comme ça. Qu'est-ce qui se passe en 1803 ? Un an après le premier concordat, il se trouve que l'Église, pour la première fois, va renouveler ce qu'on appelle les premières communions. Cécile Mille a 13 ans et demi. Elle descend de la Malcôte où elle habite. La Malcôte, c'est un ensemble de fermes autour du château dit de Bouclan actuel. Ce château était une possession du cardinal de Granvelle à son époque. On l'oublie trop souvent. Et d'ailleurs, au château de la Malcôte, il y avait un employé qui s'appelait Jean-Jean, qui était un copain invétéré de Gustave Courbet, surtout pour aller chiper les truites, soit de la brème, soit de la loupe. Bon. Ça, c'est une petite anecdote très importante pour qui connaît Courbet. Nous sommes sur la route de Mézières-Notre-Dame, et donc il existe un chemin qui rejoint Mézières à Ornans, encore actuellement, et qui passe à Ras de la Loue, à un endroit qui s'appelle, effectivement, il y a un embranchement qui s'appelle la Malcôte, mais personne s'est interrogé sur le nom Malcôte. Si vous y allez encore maintenant, vous allez voir qu'il y a pas mal, excusez-moi, de panneaux d'accidents, y compris notamment mortels. Il y a eu beaucoup, et il y a encore beaucoup d'accidents, à se demander ce qui se passe à cet endroit-là. Et dans les premières relations qu'on a de cette histoire de Malcôte, il y a même des gens de Montron qui disent qu'ils ont été affectés par cet endroit, malfamés, etc., qu'ils ont été attaqués, et que c'est pour ça qu'on a mis des statues de protection, dont la Vierge du Vieux Chêne, quoi, de Notre-Dame, qui est une copie au niveau méthode, comme je vous ai dit, des Vierges de la Forêt de Chaux. La Forêt de Chaux étant en bordure de Loup, il ne faut pas l'oublier, nous sommes en Basse-Loup. Mais c'est quand même la Loup tout de même. Vous voyez, de la Loup, donc, c'est une coutume qui venant du Jura, a dû remonter en même temps que la culture de la vigne, associé aux chênes. Donc ça, c'est important de situer de 1803. Elle fait sa première communion à Cé-en-Varais. Ils vont à pied. Depuis la maison, c'est l'ancienne colonie des Chenestrelles, au-dessus de Notre-Dame-du-Chêne. Donc, depuis cet endroit-là, Pierre-Antoine Mille, vigneron, est fermier là, depuis peu. Avant, il habitait juste en face de la maison des Ordinaires, et d'une ferme à Mézières-Notre-Dame à l'entrée qui existe toujours avec une peinture notoire, au Chaveau. Au Chaveau. Ça vous dit quelque chose, je pense. Le Chaveau, c'est pour Courbet, et le seul Courbet. Il n'y a que Courbet qui parle de Chaveau. Ben vous allez voir, vous allez aussi découvrir autre chose plus passionnant. Donc, Cécile Mille habitait en face du Chaveau. Elle a émigré à cette ferme de la Malcôte un an ou deux juste avant. Elle va faire sa communion, non pas solennelle, sa première communion, à 13 ans et demi, au sortir de la Révolution. C'est la réconciliation de l'Église et de l'État. Alors que le pays de Mézières a été très réfractaire à la Révolution française, ce qu'il faut souligner. Et que le père Sibold, remarquable historien qui faisait partie de notre association d'histoire, a bien marqué dans son livret sur la famille Mille et ses descendants. Elle rencontre, elle descend donc là, et elle voit des lumières, elle voit une belle dame avec quatre jeune fille qui porte des cierges, elle voit, disons, quelque chose de rayonnant, lumineux. Elle sait. Ceux qui disent qu'elle ne sait pas, c'est une erreur. Parce que son grand-père, Mil, a implanté des statues de la Vierge dans un chêne. Et ce chêne s'étant refermé, une chance terrible, les habitants de Mézières en ont remis une autre dans un autre chêne. Au moment de la Révolution, ce chêne, par représailles, est coupé, croyant, il se trompe de chêne. L'autre est fermé. Donc il échappe à la vindicte révolutionnaire. Ensuite, les autres ne veulent plus toucher du tout, personne ne veut plus du tout toucher à cet endroit, parce que c'est un endroit sacré, protégé. En 1803, elle voit donc ces lumières, et elle sait qu'il y a eu une statue de Notre-Dame-du-Chêne. Ça n'empêche pas qu'elle ne sait pas quel chêne c'est, et où elle voit ces lumières. Elle en parle autour d'elle. On lui dit de fermer sa... Et c'est resté un peu dans la famille. J'ai des témoignages familiaux par mon épouse, qui est descendante directe de Cécile Mille. Dans la famille Lombardet, qui était descendante via les Journet, Jean Journet ayant épousé Cécile Mille. Donc la famille Lombardet disait toujours, on en parle moins, on en parle mieux ça vaut. Il a fallu une enquête dynamisée par le cardinal Mathieu en 1844 pour qu'on aborde sérieusement le sujet. Entre-temps, le chêne était vieux, et en 1839, l'année où paraît la Vierge du vieux chêne, édité en 39, on coupe le chêne, puis ça n'a pas l'air de déranger les gens tant que ça. Sinon qu'on recueille la statue un peu partout, qu'on la met à un moment donné sur le site, puis comme on a peur des vols et des exactions, on la met après dans la famille des Vernis, ensuite la famille des Depiré, on fait une chapelle, ça finit à la Visitation d'Ornans. Enfin, il y a un périple de la statue qui finit bien, finalement, par l'instauration après l'enquête de ces conférences et de ces recours aux subsides pour construire cette chapelle. Donc, ce qui est important, c'est que moi, j'ai remarqué une chose. Je suis toujours un peu historien quand même sur les bords, en même temps que linguiste. Et je me suis interrogé sur la date. 3 avril 1803. Alors, si on fait un peu d'ésotérisme, pour une fois, c'est pas difficile. 1803, 8 et 1, 9 et 3, 12. Hein? Et quand on fait 3 avril, 3 multiplié par 4, le quatrième mois, ça fait 12. Bon, pur hasard, j'en sais rien, 12 juillet, on peut tabler aussi sur 12 juillet 1863, on peut faire comme ça des équivalences. Il y a eu... Alors ce qui est incroyable, c'est que j'ai peut-être raison, pourquoi? Parce que le 3 avril, c'est pas le jour de Pâques. Tout le monde pense que c'est le jour de Pâques. J'ai regardé, moi, sur Internet... les calendriers du 19e, et à ma stupéfaction, je me suis aperçu que le jour de Pâques, c'était le 29 mars. Ce qui nous donne le vendredi de la semaine de Quasimodo au 3 avril. C'est quand même bizarre, c'est le vendredi qui suit le vendredi de la semaine sainte, donc. Pour faire un jour de communion un vendredi, point d'interrogation, il va falloir que les historiens se penche quand même là-dessus, parce que dans l'enquête, ce 3 avril, tout le monde considérait ça comme le jour de Pâques. Mais il n'y en a pas un finot qui a été voir si ça coïncidait. C'est des choses tellement simples, quelquefois, qu'il faut quand même chercher. Et alors, est-ce que c'est une volonté de faire coïncider certains chiffres? Possible, hein? Possible. Parce que les constructions hagiographiques, donc des vides saints, on en faisait comme ça... même au 19e. Donc, il faut être extrêmement prudent sur ces dates. Voilà.
Tu as le bouquin de l'abbé Favreau qui relate...
Non, je n'ai pas le livre.
Il a disparu, c'est vrai. Moi, j'ai une photocopie. Je pense que c'est quelque chose qui s'explique très bien. Il était curé sur Mézières. Il y avait deux paroisses, c'est Saint-Envarais le château et puis c'est le village. Hein, il y a des tas de choses. Lui, il revient beaucoup sur le. C'est quelqu'un qui connaissait, comme Denis Curé, beaucoup le grec et le latin. Il revient beaucoup sur les rites gaulois qu'il y avait. Par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette Vierge n'a rien à voir avec la Vierge qu'on voit partout, qui est une Vierge impériale drapée, la couronne qui symbolise l'Empire, etc. Oui. Elle a même un lergé déhanché, on dirait c'est une jeune femme. Je l'ai vue de près. Hein. Malheureusement, j'ai pas mon appareil photo. Le père Beck, qui est à l'époque. Qui était mon professeur au séminaire.
Eh oui.
M'a montré le.
À moi aussi.
Oui. Ben moi, tu l'as vu, toi, la Vierge, la vraie.
Oui.
Ah, c'est impressionnant. Oui. Ça n'a rien à voir avec les statues romaines qu'ils ont fait, la figée. Bon, d'autre part, quand on revient aussi à la.
Oui, je sais.
Et moi, j'ai fait beaucoup sur la Franche-Comté. Et puis, je cherche un peu aussi. Mais je suis plus, moi, dans l'ésotérisme que dans l'histoire. Donc, vous avez, en Franche-Comté, vous avez une déesse gauloise qui est très importante, qui s'appelle la Vouivre. Or, la Vouivre, c'est le serpent. Donc, vous avez cette qui a son escarboucle, qu'on lui vole, etc. Toutes les histoires sur Franche-Comté, c'est admirable, c'est là-dessus. Or, la Vierge qu'on a, et notamment la Vierge du Chêne, c'est l'anti-Vouivre. Et toutes les Vierges, c'est des anti-Vouivres. Vous avez la Vierge qui écrase le serpent, c'est la Vouivre, etc. Donc, vous avez à la fois, toujours ces relations, le chêne, etc., toujours ces relations à qu'est-ce qui nous reste des Gaulois comme religion, et puis par-dessus, on vient prendre ça, et puis on le christianise, quoi. Hein. Et c'est pour faire une opposition, on retrouve les vierges qu'on retrouve aujourd'hui au carrefour, c'est les matrones romaines et gauloises.
Oui, alors, donc,
toujours
André, je vais prendre le relais parce que...
Oui, parce que oui, excusez-moi. Non, mais c'est pour donc, expliquer.
Le 15 août, alors le 15 août, par contre, c'est la consécration des apparitions. Le 15 août, donc, les sœurs et frères de Cécile Mille l'accompagnent, descendent le chemin de la Malcôte, et là, ils retrouvent le rayonnement dans le chêne, et là... Le rayonnement est vu par son père et son compagnon qui vient de la forêt de Chaux. C'est un vanier qui s'appelle Louis Sœur et qui est surnommé Marchand d'eau. Or, marchand d'eau, ça veut dire petit vendeur. Un marchand, petit vendeur. Or, les ventes, ce sont les réunions secrètes des bons cousins charbonniers dans la forêt de Chaux. On appelle ça des ventes. Les vendita. En italien, puisque les charbonniers de la forêt de Chaux sont eux qui ont inventé littéralement les carbonari républicains d'Italie, qui se réclamaient des vendeurs lors des ventes, des cousins, bons cousins charbonniers de la forêt de Chaux, instaurateurs par autrement des vierges dans les troncs de chêne. Donc là, il y a une relation évidente. Alors ce qui est de remarquable, c'est que Louis Sœur, le vanier, compagnon qui vient retaper les paniers des vignerons, prend une échelle, et l'échelle, c'est le symbole, c'est ce qu'on appelle l'échelle à 11 barreaux, c'est le symbole des bons cousins charbonniers. Et il prend cette échelle, il l'appuie contre l'arbre, et il prend le deuxième symbole des bons cousins charbonniers, ce qu'on appelle la hache. Il fend le tronc du chêne avec la hache sur l'échelle des charbonniers, et il ouvre le cœur du chêne où apparaît la statue en terre des Trépignés, qui est un village de la forêt de Chaux, et qui comporte encore ce village des chênes à gui, que je vous recommande d'aller visiter et d'embrasser, comme je vous ai expliqué, les pieds sur les racines. Il y a à la fois des faits historiques et des faits presque mythologiques, ésotériques, qui s'entremêlent, où il est difficile de trouver une vérité après l'autre. Alors, ce qui est encore plus remarquable, c'est ceci.
La chouette dans le chêne, c'est le symbole de la clairvoyance.
Qu'est-ce que vous voyez là ?
Des chevaux, trois chevaux.
Trois chevaux. Trois chevaux qu'on retrouve dans un autre blason, là. Alors... Là, nous allons aborder la truculence monastique dans quelques instants en passant dans l'autre salle avec les curés en goguette. Et retenez bien cette histoire des trois chavots, parce que ça vaut son pesant d'or, et on finira là-dessus. Alors on tombe dans la salle qui suit, voir la truculence des curés en goguette.
Et comprendre les goguettes.
Et pourquoi les goguettes?
Et comprendre les goguettes.
Et comprendre les goguettes. Voilà, si vous vouliez que bien tout comprendre, j'aurais pas dû boire de l'eau. J'aurais dû boire ou de la bière, ou encore mieux, naturellement, avec Notre-Dame du Chêne, du bon vin. Café et cabaret. Et puis, donc, café et cabaret. Vous allez voir, c'est pas triste. Et puis, vous pourrez regarder tout à gogo. C'est le mot voulu. Je m'excuse, je vais être un peu, pas trivial, mais très légèrement gaulois. Pour comprendre les curés en goguette qui font le pendant, nous le verrons dans texte, mais en même temps quelque chose de sacré dans le message de Gustave Courbet pour conclure, vous verrez. C'est pour ça que je vous demanderai de patienter jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, parce que le message que nous délivre Gustave Courbet est extrêmement important pour tout comprendre, vous verrez. Donc, cette association de curés en goguette et de retour de la conférence, c'est équivalent. Nous allons en suivre la description. Quand je dis gogo, je me rappelle d'un éminent directeur de l'harmonie municipale d'Ornans qui, sur le journal, avait fait les gorges chaudes des Ornanais. C'était M. Cuneau, que nous avons bien connu, qui était sympa comme tout et un extrêmement bon directeur d'harmonie, qui disait « Samedi prochain, sauterie à gogo ». Bon. L'objet trivial peut apparaître dans les jeux de mots éminents, mais c'est exactement la pensée que pouvait avoir Gustave Courbet. Nous en lirons des textes tout à l'heure de sa part, dans les curés en goguette, qui sont reproduits avec ses dessins tout autour, là, que vous allez pouvoir voir tranquillement après. En attendant, je vais vous lire un ou deux passages très courts, notamment un passage d'un livre d'Alfred Delvaux que je recommanderai à l'Institut s'ils ne l'ont pas, parce qu'il y a toute une description de Gustave Courbet et des lithographies de Gustave Courbet, de Léopold de Flaminck et de Félicien Rops, qui est un des disciples de Courbet. 1862. Alors vous imaginez, 1862, c'est un an, c'est déjà au moment où il commence sa peinture. Alors, tout simplement, c'est une description de plusieurs brasseries que Courbet a fréquentées, dont la brasserie Handler, qui était considérée comme une goguette parmi les 500 goguettes de Paris. Goguette, bon, effectivement, on n'est pas loin de la guinguette quand même, mais on ne dansait pas, ou très peu. On chantait beaucoup, d'une voix quelquefois avinée, on baffrait, ou on mangeait noblement, parce qu'au départ, c'était des cafés nobles, où on échangeait noblement.
C'était des cafés philosophiques ou pas ?
Oui, oui, oui. Et qui ont commencé avec la Régence en 1715. Au XVIIIe siècle. Alors, naturellement, déjà sous la Régence, il y avait déjà des abus, parce que sous la Régence...
Vous avez été tellement opprimé avec la fin de...
Voilà. Alors, ces goguettes sont nées là, par des cafés qui existaient tout au long du XVIIIe, remarquables d'ailleurs, où les poètes, les artistes échangeaient, les peintres, les architectes se rencontraient, créaient en même temps des nouveautés. Ça vaut la peine. À cette époque-là, nous sommes à la brasserie Handler, rue Hautefeuille. D'ailleurs, la rue Hautefeuille, c'est intéressant, parce qu'elle porte le nom d'un où c'est que, est-ce que quelqu'un peut me dire un château dans la région qui s'appelait Hautefeuille, dans la vallée de la Loue? Non? Personne? Non, au-dessus de Moutier. Au-dessus de Moutier, vers la Grande Baume, oui. En face de l'eau au Moutier. Alors, la rue Hautefeuille, c'est là où aussi Courbet avait son atelier. Il en était tout proche de la brasserie. À cette époque-là, florissait déjà le réalisme, ce fruit incestueux d'une carpe et d'un lapin. Et dans ce temple du réalisme dont M. Courbet était alors le souverain pontife, et M. Champfleury le cardinal officiant, il y avait alors comme public de buveurs, étudiants et graveurs sur bois compris, que des réalistes et des non-réalistes. Je n'ai ni le temps ni l'espace nécessaire pour me livrer ici à une catilinaire en règle. Mais ce que je puis et veux dire, c'est que depuis que je suis au monde et qu'elles sont attachées de chaque côté de mes oreilles, de ma tête, mes oreilles ont été choquées de bien des jargons différents. Le jargon des enthousiastes, des sceptiques, etc., etc. Probablement parce que les réalistes ne savent pas ou ne veulent pas parler français. Et cependant, M. Courbet est un maître peintre et M. Champfleury un écrivain de talent. Un homme à qui, à ce qu'il me semble, se connaissent en style. Ce soir-là, au moment où 10 heures allaient sonner au cartel de la brasserie, un homme entra, superbe. Vous allez voir la description. Oh, ça vaut son pesant. Comme je ne sais pas faire le portrait, je vais m'adresser à un artiste qui s'en acquitte très bien, monsieur Théophile Sylvestre. C'était, dit l'auteur de l'histoire des peintres vivants, un très beau et très grand jeune homme âgé de 36 ans et demi. Sa remarquable figure semblait choisie et moulée sur un bas-relief assyrien. Ses yeux noirs, brillants, mollement fendus et bordés de cils longs et soyeux, avaient le rayonnement tranquille et doux des regards de l'antilope. La moustache à peine indiquée sous le nez aquilin insensiblement arqué rejoignait avec légèreté la barbe déployée en éventail et laissait voir des lèvres épaisses, sensuelles, d'un dessin vague, froissé et des dents maladives. Ah ! La peau était d'un brun olivâtre, échangeant et nerveux, le crâne de forme conique, cléricale, et les pommettes saillantes marquaient l'obstination. Il est inutile d'ajouter que ce portrait est celui de Courbet. À son entrée, il y eut un brouhaha significatif qu'il aurait recommandé à mon attention si déjà son aspect ne m'eût fortement intéressé. Les manieurs de carton laissèrent là leurs sandasses, leurs quintes et 14, c'est des joueurs de cartes, pour saluer du regard, du geste et de la voix le pontife du réalisme. Les joueurs de billard eux-mêmes, distraits de leur partie comme les autres, s'interrompirent respectueusement et élevèrent leur queue comme autant de points d'exclamation. Il s'avança portant haut la tête, comme Saint-Just, et on l'entoura. Il s'assit, et l'on fit cercle autour de lui. Il parla, et on l'écouta. Je trouve que ce texte admirable. Quand il s'en alla, on l'écoutait encore. Quand il fut parti, ce fut un concert. « Quelle tête !» disait l'un. « C'est un Assyrien !» disait l'autre. « Quel nez !» reprenait celui-ci. « C'est un Espagnol !» répondait celui-là. « Quelle bouche !» redisait le premier. « C'est un Vénitien !» répondait le second. « Quels yeux !» ajoutait un troisième. « C'est un Indien !» affirmait un quatrième. « Quelles dents !» faisait observer quelqu'un. « C'est un Burgonde !»« Ah !» répondait tout le monde. « Ce Byzantin est tout simplement un Byzantin !» exclamait un enthousiaste. Et la suite. Je vous recommande de retrouver ce texte sur Internet. Alfred Delvaux, Café et Cabaret, ça vaut la peine, ça vaut ce pesant. De toute façon, avec l'Institut, on fera en sorte qu'on le trouve ou qu'on le reproduise, n'est-ce pas ? On peut travailler là-dessus. Mais maintenant, arrive le sommet de la gauloiserie. Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu. Ah, c'est là. Il faut savoir que déjà qu'on a une chanson grâce à monsieur et madame Cyr, signée Gustave Courbet. Alors, comme introduction à la vinification ou à la chanson à boire, c'est très intéressant. Pourquoi nos vignerons pur sang ont-ils pour patron, pour compère, le glorieux martyr Vincent? La raison en est toute claire, c'est qu'avant d'être ce bon vin, que dans nos verres l'on voit luire, il a fallu que le raisin du pressoir subit le martyr. Alors jusqu'à maintenant, ça, on chantait à la messe. C'est encore chantable, ça. C'est chantable. Pourquoi nos vignerons pur sang ont pour patron, pour compère, le glorieux martyr Vincent? La raison en est toute claire, c'est qu'avant d'être ce bon vin, que dans nos verres l'on voit luire, il a fallu que le bon vin du pressoir se martyr. Donc célébrons la Saint-Vincent et le cèpe toujours renaissant, la sève qui dort sous le givre au premier soleil va revivre, au premier soleil va revivre. Mais les autres couplets sont moins chantables à l'église. Alors, c'est une chanson fétiche de la Saint-Vernier. C'était normal qu'on la chante quand même, surtout avec la confrérie. Mais ce qui est intéressant, c'est que savoir que le moment du jumelage avec la Tour de Paix, nous l'avons chanté là-bas, dans la maison de Courbet, en son honneur. Et nous avons chanté, naturellement, les couplets qui sont même pas gaulois, qui sont gentils, mais qu'on pouvait quand même pas chanter à l'église. Pour voir si nous sommes déçus, goûtons au vin de cette année, la gelée a passé dessus quand la Saint-Vincent est sonnée. Des vers, retenez bien les mots, parce qu'on va retrouver dans une chanson plus gauloise à peu près les mêmes expressions. Des vers, le gai carillon annonce que l'année est bonne, chante au foyer petit grillon, au cabaret ma voix résonne. Vous voyez qu'à la messe... Rentrons chacun à son devoir et n'attendons pas que l'épouse, en plein cabaret, laisse voir qu'elle est minutieuse et jalouse. Demain, nous rendrons tous nos soins à la vigne toujours féconde. Tous ceux qui boiront de nos vins seront les vrais maîtres du monde. C'est pas beau, ça, hein? Bon, alors maintenant, on va chanter. J'ai pas eu le temps de l'improviser sur l'ordre. J'ai que la musique, mais on finira bien pour la chanter un jour. La chanson de Courbet. Entre nous, j'ai un autre poème. Vous voyez, il y a marqué le poème. Revue de conférence. C'est pas à lire dans toutes les... C'est marqué revue de conférence. Vous voyez qu'on joue bien sur les mots conférence et goguet. Alors, du principe de l'art, ça c'est fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver au cardinal de Rohan. Alors, ça ne vous dit rien du tout, le cardinal de Rohan, mais ça va vous dire quelque chose dans
l'affaire du collier.
Ça vous dit l'affaire du collier, oui. Mais ce n'est pas le même cardinal. Mais c'est la même famille. C'est la même famille associée à une famille qui s'appelait Chabot. Chabot. Et les Rohan Chabot avaient comme... Les Rohan Chabot avaient comme les Chabot comme emblème. Voilà. Mais on va voir pourquoi on parle des Rohan Chabot. Les moines de la chaise Dieu. Vous trouverez ça sur Internet. Mais il faut chercher pour trouver. Je vous le dis tout de suite. Voici une vieille chanson moderne. Est-elle vieille? Enfin, toute vieille qu'elle paraît être, elle n'est connue que depuis quelques années. C'est Gustave Courbet, le grand artiste peintre, qui l'a, dit-on, vulgarisée. Il se défendait très mollement d'en être l'auteur. Très mollement. Et vous allez voir que l'écrivain qui écrit ça dit bien la vérité parce qu'il a essayé de restituer l'accent de Courbet, ce que je n'ai vu nulle part dans les textes. Lorsqu'on la lui attribuait, il répondait avec l'accent franc-comtois que tous ceux qui ont vécu dans son intimité connaissent bien, je l'ai modifié arrangé pour l'avoir fait, je ne l'ai point fait. C'est écrit comme ça. L'abbaye de la Chaise-Dieu, l'une des plus riches qu'il y ait eu en France, fut fondée par Robert d'Aurillac au XIe siècle. Alors, suit l'historique de la Chaise-Dieu, qui se situe au sud du Massif central, dans la région de Brioude, qui n'a rien à voir apparemment avec nous. Hein. Les stalles de l'église, par contre, il y a une chose intéressante. Les stalles de l'église au nombre de 144, ça veut dire c'est un chiffre 12 fois 12.
Oui.
C'est les 144 dans l'Apocalypse. C'est les 144 justes. C'est un chiffre que vous trouvez dans l'Apocalypse de Saint Jean qu'on récite à la Toussaint. Je crois en évangile ou en épître. Je ne me suis plus très sûr, mais je sais qu'on le lit à la Toussaint. Sont d'un travail merveilleux, des médaillons sculptés sur chaque dossier, etc. Ici, c'est un singe, là, un âne qui joue d'un instrument. Alors, c'est important, ça. Parce que vous savez, quel est l'ancêtre de la flûte ? La flûte de Pan. La flûte de Pan, justement, des Silènes. Pan est représenté avec un âne. Comment ça s'appelait en latin, la flûte ? Ah, c'est un os d'âne. Le ? Oui, c'est le tibia. C'est le tibia. Tibuken, c'est le chanteur de flûte. Donc, la première flûte a été faite avec un os d'âne. Voilà pourquoi on joue sur les sons. Parce que, naturellement, la flûte, c'est un instrument à vent. Oh, 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 oh. L'âne représente le souffle. Et c'est ce qu'il y a de plus peut-être important dans la peinture de Courbet et que personne n'a remarqué, c'est que ça faisait du bruit. La peinture du bruit, elle fait du bruit. Courbet veut qu'elle fasse du bruit, comme le braiement, le cri de l'âne. Oh, oh, qu'il alerte. C'est l'âne, Courbet, avec le chien, c'est l'âne qui veut qu'on fasse du bruit, comme un âne qui joue de la musique. C'est important, ça. Il est encore à remarquer que dans cette église, etc., on a cru reconnaître... Alors, j'oublie l'essentiel. Elle eut pour abbé cette abbaye, entre autres cardinaux, pas n'importe qui, Mazarin, Richelieu, d'Armagnac et de Rohan. Et de Rohan, le cardinal de Rohan, le fameux cardinal de la fille... Il a été mis en prison dans l'abbaye de la Chaise-Dieu, puni dans cette affaire de collier, donc il a été relégué là-bas. Alors je vous dis tout de suite que c'est très important cette histoire de Rouen, mais on va le savoir si vous avez encore 5 minutes de patience, bientôt. Nous accordons, on a cru reconnaître dans la chanson qui nous occupe une critique du Moyen-Âge et Courbet lui-même, ainsi que nous le disons au début de cette notice, prétendait l'avoir simplement recueilli. Nous accordons qu'il en peut être ainsi. Pourtant, le monastère des moines de la Chaise-Dieu est situé en Auvergne, près de Brioude, et non en Franche-Comté, près d'Ornans. Il parle d'Ornans. Nous penchons à croire que l'artiste qui avait un si grand amour du réel s'est transporté à l'époque où les moines hantaient le monument qu'il visitait et a dépeint, avec l'accent du sentiment qu'il inspirait, la vie insouciante et débauchée des moines du Moyen-Âge. L'aspect insouciant et débauché du moine du Moyen-Âge. On commence à s'approcher des curés. Et vous allez voir que c'est bien ça qu'il veut dire. Il n'est pas jusqu'à la musique qui ne témoigne d'une adaptation forcément au sujet. Chacun qui y trouvera une parenté certaine avec le plein chant. La musique que Courbet a faite, apparemment, s'apparente au plein chant comtois, dont le cardinal Mathieu ne voulait pas la réforme d'ailleurs, ce qui est autant de l'instauration de la chapelle. Puisque les expressions sont en quelque sorte recherchées et loin d'avoir la naïveté d'un langage primitif. Courbet n'est pas connu comme chansonnier, pourtant il ne dédaignait pas de chatouiller la dixième muse. Alors là, il y a quelque chose de... Je m'excuse, mais je vais travailler par allusion, là. Ils ont des oreilles et ils ne comprennent pas. Vous allez avoir des oreilles et vous allez tout comprendre. La dixième muse, c'est la muse de Lesbos, de Sappho. Hein ? C'est bien ça. C'est-à-dire, c'est des poèmes des amours entre femmes. Bon. Donc, Courbet avait un certain penchant dans sa peinture. Est-ce que vous connaissez des peintures où il y a des allusions à Lesbos ? Il y en a plein, oui.
Surtout vers les grottes qui signifient l'eau, puis la femme.
Oui, mais des peintures. Les deux amis, le sommeil. Alors le sommeil, comment on l'appelle aussi? Non, les personnes, qu'est-ce que vous voyez dans le sommeil? Vous avez deux personnages, une avec des cheveux bruns et l'autre blond. C'est la brune et la blonde. Vous retenez bien, hein? Retenez bien. Alors, il en composait aussi la musique et les chantait d'une assez jolie voix dans les réunions de bons enfants. Alors, il faut savoir que les bons enfants, c'était une goguette qui s'appelait les bons enfants, entre guillemets, hein. Dont, malheureusement, nous n'avons pu faire noter l'air aussi décousu, disons-le, que les paroles. Alors, les paroles sont citées. Tous les garçons chantaient le soir au cabaret qu'ils étaient réunis. Tous les garçons chantaient, répétant ce refrain, troulala, troulala, etc. Enfin, bon, je ne vais pas insister. Vous regarderez le texte. Un jour, en 1800... Alors là, c'est extrêmement important. C'est le plus grand des passages. Un jour, en 1849, au moment donc de la peinture de l'enterrement ornant, nous avons conduit Courbet au dîner mensuel de la goguette La Lys Chansonnière. La Lys Chansonnière. Où il chanta une pièce de son genre. Il obtint naturellement un médiocre succès dans ce temple des admirateurs de la rime, parce que les Parisiens pinçaient en rimant à la façon Victor Hugo. Donc lui, il arrivait avec des vers plats, donc il n'a pas été bien reçu. Il obtint naturellement un médiocre succès dans ce temple des admirateurs de la rime et du timbre, mis entre guillemets, et n'exprima en sortant son désappointement dans ces termes. Dans quelle société de bourgeoisiers m'avez-vous emmené là ? Jugement immérité où se peint la mauvaise humeur d'un incompris, car la liste chansonnière a compté et compte encore dans son sein de véritables artistes poètes, comme aussi des chansonniers très réalistes ou naturalistes, comme on dit à présent, qui n'ont pas cru devoir sacrifier et dédaigner la rime dans leur œuvre, partageant à ce sujet l'opinion de Voltaire, etc. etc. S'il est vrai, comme cela semble certain, que les moines de la Chaise-Dieu sont pour la plus grande partie l'œuvre de Courbet. Et vous allez voir les moines de la Chaise-Dieu dans quelques instants. Et comme ce dernier les critiquait... S'il semble certain que les moines de la Chaise-Dieu sont pour la plus grande partie l'œuvre de Courbet, on voit que lui aussi a senti la nécessité de la rime pour la versification française, surtout pour celle destinée à être chantée, comme vous allez le voir. Notre illustration a été composée sur des croquis du maître. Alors j'ai pu relever les illustrations malgré ma mauvaise qualité d'imprimante. Oubliez, alors ça c'est nouveau, et personne ne l'a cherché, donc ça nous donne des pistes nouvelles pour Courbet. Des croquis du maître, oubliés ou chipés au moulin de la Madeleine. Qui dit moulin dit âne d'ailleurs, hein, je vous dis tout de suite. Hein. L'âne, vous savez, pour la farine, etc. Chez Charles Furne, on a des noms. Ça nous donne des pistes énormes. Cette exposition nous ouvre des pistes nouvelles pour Gustave Courbet. Et comme ce dernier les critiquait, donc se nommait Charles Furne, disant « Mais dans les moines, décrit, il y en a des grands et maigres, tous les vôtres sont gros et courts, un peu à son image déjà de l'époque, « Que veux-tu ?» répondit Courbet. « C'est probablement leur robe qui en est cause. Moi, je les vois tous larges et obtus. » Phrase clé. Retenez-la avant de partir. On peut remarquer dans le tableau retour de la conférence. Que Courbet voyait aussi les curés avec les mêmes yeux que les moines. Pof, c'est dit. On a établi le rapport entre la chanson, mais vous allez voir jusqu'où ça va, les rapports entre la chanson et les curés. La chanson des moines de la Chaise-Dieu a été à notre connaissance publiée, etc., etc. Courbet était un vrai bout en train, un bon vivant, et chanter était la manifestation de sa bonne humeur. Voilà la réhabilitation de Courbet. Il était lui-même. Nous nous souviendrons toujours de nos retours des promenades de la forêt de Fontainebleau lorsqu'il entonnait et faisait retentir les rochers de sa pleine voix avec la vieille chanson que voici. Alors je dis le début, en revenant un jour de l'île en Flandre, tralala, tralala, lala, en revenant un jour de l'île en Flandre, viens, voilà mon cœur, tiens, tiens, voilà mon cœur, etc. Après, ça se libère un peu. Bien, alors je vous montre maintenant la musique, les textes, et je vais vous lire le premier, qui est assez léger, mais alors il y en a. La strophe 5 et la strophe 6, si vous n'y comprenez pas, ben alors là, je ne sais pas comment vous expliquer. Les moines de la Chaise-Dieu, un jour au sortir du Saint-Lieu, vinrent au réfectoire, étant doués d'un appétit qui, dit-on, n'était pas petit. Et d'une soif notoire, au dessert ils chantaient en chœur, « Le bon vin réjouit le cœur, et bon de cette liqueur !» Expression qu'on retrouve dans les chants de Saint-Vernier. « On ne saurait trop boire !» Chez Rabelais, oui. Alors je vous lis maintenant la cinquième. Je vais avoir certaines difficultés parce que c'est écrit plus petit. Vous m'excuserez de mes hésitations. De cet excellent vin d'Arbois. Qu'est-ce que ça vient faire à la Chaise-Dieu? De cet excellent vin d'Arbois, à votre intention, je bois. Donc, vous savez, vin d'Arbois, plus on va droit. Voilà, vous avez exactement du Courbet, là. À votre intention, je bois. Mon beau-père Pacôme. Alors, Pacôme, c'est le moine qui a inventé avec Saint-Antoine les monastères. Il avait un frère qui l'a embauché aussi comme moine, et puis une sœur, je dis bien une sœur, il a inventé aussi les moniales, c'est-à-dire il a fait les couvents masculins et féminins. Naturellement, il pouvait y avoir peut-être, selon moi, des allusions au passage de l'un à l'autre, comme au XVIIIe, on le fait avec la religieuse de Diderot, par exemple. Mon bon frère, mon bon père Pacôme, je boirai même à vos amours. La brune, Alix, tous les jours vous lorgne. Dieu sait comme. Ne craignez rien de notre abbé. Par un escalier dérobé, j'ai vu monter la blonde. Ça vous dit quelque chose cette fois? Hébé, c'est la déesse de la jeunesse. Qu'a précédé Ganymède. Ganymède, c'était les chansons des dieux, qui a été enlevée par Zeus, Jupiter. Hébé, c'est une déesse femme, fille, qui a précédé Ganymède, garçon. Donc il y a double allusion, la brune et la blonde, vous imaginez un petit peu. J'ai vu monter la blonde Hébé au logis du Saint-Homme. Mais attendez, maintenant la sixième. Alors là, je vous dis tout de suite, pensez à Notre-Dame du Chêne. Je m'excuse, mais à la voyante. Cécile. Cécile, entre nous, ça veut dire aveugle. Hein?
Caïcous,
aveugle. Caïquilia, aveugle. Elle était aveugle, effectivement. C'est pour ça que les musiciens, Sainte Cécile est patronne des musiciens, parce que Sainte Cécile portait un nom d'aveugle. Vous savez que les aveugles, ils ont un toucher remarquable. D'orgue. Et vous qui faites le sournois. Ah, une chose, Cécile Mille était mariée à Jean Journet. Oui, Jean Journet, qui est aussi un ami de Courbet, mais pareil, c'est pas le même. C'était un fourriériste qui l'a peint. Jean-Claude Journet était le mari de Cécile Mille. De là, nous descendons. Et vous qui faites le sournois, frère Jean, alors c'est aussi frère Jean des entomeurs, hein, dans la chanson, y compris aussi dans les chansons de Dupont-Loup. Je sais quel minois vous occupe entre mille. Trahi par votre sainte ardeur, on sait que votre tendre cœur en tient pour sœur Cécile. Faut le faire. Calmez le zèle trop fervent qui vous fait aller au couvent. Quand on allume trop souvent, la lampe manque d'huile. Bon, il y a d'autres allusions. C'est ce qu'on appelle un texte à clé. C'est un texte à clé. Il y a de quoi rire, effectivement. Alors, vous imaginez un peu maintenant. Les goguettes, les curés en goguettes, je crois que vous avez tout compris et que vous allez trouver maintenant des illustrations, y compris sur Internet, qui vont corroborer cette manifestation, j'allais dire quasi ésotérique, de la goguette auprès des prêtres. Et nous allons lire en finale les passages qui concernent les curés en goguette, qui concernent les tableaux, avec le final qui est une conclusion magnifique de Gustave Courbet sur la laïcité et sur le droit d'exister de la religion. Ce qui veut dire que Courbet est peut-être anticlérical, plus pour rire que pour en profondeur à mon sens, et qui n'est surtout pas anti-religion, vous le verrez, parce qu'il le dit lui-même. Et il l'écrit lui-même dans les curés en goguette. Le livre est par là.
Comme dit Rabelais, ne confondez pas, Jean des Entomeurs, le service divin avec le service du vin. Plein dedans.
Mais c'est exactement ça. Hein. Attendez, il y est là, le livret. Le livret, le voilà. Bon, alors, je m'assois quand même. Alors, nous allons avoir un bis repetita, c'est-à-dire une deux fois répétée, de la scène de la goguette. Mais vous allez voir, je pense qu'on va faire une sorte de dîner goguette, de dîner débat, où on alternera la lecture de ce curé en goguette, écrit sous l'influence de Courbet. Peut-être que Courbet ne l'a pas écrit. Moi, j'ai des doutes, je crois que Courbet savait très bien écrire, et qui cachait son jeu. Ça commence par une... Donc l'image commençant, la première image, c'est le chêne de Notre-Dame avec la statue. Beaucoup de prêtres sont assurément dignes de respect. Pour l'héroïsme, alors j'aime bien les jeux de mots, pour l'héroïsme avec lequel ils résistent aux pièges tendus sur leurs pas, par l'oisiveté et les excitations sensuelles de leur profession. C'est bien dit. Il faut en effet avoir un caractère bien énergique pour rester sobre devant une table plantureusement servie et sage en face d'une jeune fille, découvrant d'une voix palpitante d'émotion les plus mystérieux secrets de son cœur. Pense à la confession, naturellement. Cet opuscule n'est point à l'adresse de ces philosophes fourvoyés dans une carrière sans issue comme un cerf dans une impasse. Il s'agit au contraire de faire connaître ici les faits et gestes de quelques joyeux compères ressemblant plus à des disciples d'Épicure qu'à des serviteurs de celui qui n'avait souvent pas une pierre pour lui servir d'oreiller. Vous n'allez pas me dire qu'il parle du Christ d'une mauvaise manière. Vous n'allez pas me dire que c'est une phrase d'un incroyant. Au contraire, il l'affirme. Alors, le grand discours sur la conférence, il décrit la conférence. Vous pourrez lire tous des passages là-dessus. Et je vous souhaite... Je demande à l'Institut, je supplie l'Institut un jour peut-être de rééditer au moins ce texte des curés en goguette, parce que vous aurez un succès fou grâce aux lectures qu'on en fera encore un peu plus souvent. Alors, toute l'histoire de la goguette est décrite dans les dessins que vous allez voir. Ça commence bien. Les curés reniflent les bonnes odeurs, vont voir les cuisinières, puis ensuite s'approchent dangereusement des cuisinières, plus que des plats, puis après plus que des plats que des cuisinières. Et ensuite, finalement, ils commencent à discuter vivement. La discussion prend des tours, comme dans toutes les conférences, semi-politiques ou semi-autre chose. Et ils commencent à s'insulter brillamment et à se crêper le chignon, comme diraient certaines. Bon. Et là-dessus, il y a le retour. Alors le retour, je ne vous fais pas un dessin, ça va être amusant. Ces messieurs sortaient d'une conférence dans laquelle ils avaient largement fêté la douce purée septembrale, donc de septembre. Qui dit septembre dit les vendanges. Mais aussitôt qu'ils eurent pris l'air, ils commencèrent à pâlir et à chanceler. L'un d'eux, énorme gaillard pesant près de 140 kilos, s'était hissé sur un petit âne d'une placidité vraiment philosophique. Tout alla bien pendant un instant. Mais les mouvements irréguliers de l'homme qui cherchait constamment à reprendre son centre de gravité firent si bien chanceler le baudet que celui-ci finit par être entraîné sur le bord de la route. Une fois là, la lutte d'équilibre ne dura que quelques secondes. La terre céda tout à coup et l'âne roula dans le fossé avec son maître. Eu égard à son poids énorme, le curé jouit du privilège d'arriver le premier au fond du trou. À ce spectacle, les conférenciers, ses collègues, firent assaut de zèle pour lui venir en aide. Et en dignes ivrognes qu'ils étaient, ils se gourmèrent quelque peu et finirent par tomber sur ceux qui voulaient secourir. Vous imaginez, c'est très imagé comme spectacle. Une fois serrés entre les parois étroites du fossé, hommes et bêtes s'escrimèrent pendant plus de 20 minutes pour en sortir. Les cris, les plaintes et les menaces des curés coupées par les... C'est là qu'on parle de bruit. Les cris, les plaintes et les menaces des curés par les braiements lamentables du baudet formaient une cacophonie de nature à faire mourir de jalousie tous les musiciens d'un orchestre chinois. Le voyageur fut obligé de se boucher les oreilles pour se soustraire à cet infernal charivari. Je vous demande, est-ce que quelqu'un a parlé de la peinture, le retour de conférence au niveau du bruit? Personne. C'est essentiel pourtant, Courbet insiste bien là-dessus. Le bruit que ça va faire et que ça faisait. C'est extrêmement important pour comprendre Courbet. Courbet est marqué par les oreilles, par Louis, c'est un musicien. Il compose, il joue de l'instrument de musique, comme ses parents. Un curé saisit l'âne par la bride, un autre appuya ensuite le ventre du cavalier contre le flanc de l'animal, puis un troisième passa de l'autre côté, puis etc., etc., etc. Le paysan spectateur se tordait de joie. Vous voyez, celui qui au début retire son chapeau, et à la fin il rigole appuyé sur son fossou. Mais sa femme qui venait de le rejoindre se jeta à genoux et se mit à prier. Alors là, c'est l'âne porteur de reliques. Et se mit à prier avec ferveur pour neutraliser l'effet d'un tel scandale. C'est exactement l'âne porteur de reliques avec la femme qui fait son ave à la barrière de conférence. Vous avez exactement le passage. Lorsque le curé eut repris sa place, ses 10 collègues, parce qu'ils étaient 10 là dans l'affaire, l'entourèrent pour le protéger contre une nouvelle chute. Les malheureux n'avaient point du tout le désir de recommencer de la gymnastique. Bientôt, le convoi se remit en marche. Cette fois, le vicaire de l'ivrogne tenait l'abri de l'animal, etc., etc. Vous devinez la suite, mais je pense que vous aurez l'occasion de relire ces passages à tête reposée, en demandant à des amis qui ont le livret, et surtout à l'Institut, que je remercie encore. Donc, l'immense représentant est là. Dominique, entre autres. Alors, je ne vous raconte pas la cette scène se passait sous un arbre où se trouvait une petite Notre-Dame en plâtre, logée au... parce qu'à l'époque on pensait qu'elle était en plâtre. La terre des Trépignés, ça apparaît beaucoup plus tard, à la fin du 19e. Logée au fond d'une niche creusée dans le tronc et protégée par un treillis de fils de fer. Cette niche était remplie d'ex-voto et de menus bibelots à l'usage spécial des vieilles bigotes. Comme bon nombre de dévots sont convaincus que l'aspect d'un ivrogne arrache des larmes de douleur à la Sainte Vierge, le voyageur, qui croyait naïvement que Notre-Dame avait toutes les raisons possibles pour renverser à torrent ce jour-là, l'examina avec attention. Mais les miracles ne sont pas faits pour les impies. La petite statuette était sèche comme le lit du Manzanares au mois de juillet. Alors, le Manzanares, c'est un ruisseau qui traverse Madrid, dont le patron est Saint Isidore. Et Saint Isidore, vous allez le trouver à l'église de Saul, vénérant en prière le chêne de Notre-Dame du Chêne, avec la Vierge bien inscrite portant l'enfant et encerclée de fleurs. Donc, solliciter la personne qui s'occupe de l'église, je ne l'ai plus en tête.
Girardet.
Monsieur Girardet, pour aller visiter, d'un côté vous avez, au centre, vous avez Saint-Nicolas de Courbet, et de l'autre côté, fait certainement par Victor Baille, un ami de Courbet au petit séminaire, la peinture de Saint-Vernier, qui vénère, comme m'a dit notre ami Alain, qui doit être là, qui avait fait la remarque, qui vénère une partie du chêne, alors que le chêne est coupé de l'autre côté avec Saint-Isidore et la Vierge Marie portant l'enfant. Donc allez voir, vous aurez l'explication du Manzanares, parce que le Manzanares, comme par hasard, c'est un ruisseau dans lequel vivaient des prostituées qui faisaient des petits trous dans leurs tentes, et les gens qui s'encanaillaient, comme quoi, vous voyez, tout est lié, regardaient par le trou de la tente les ébats des prostituées. Ce qui est la preuve que Gustave Courbet a fréquenté Madrid. Quasiment. Parce qu'on a des allusions notoires. Alors maintenant, je conclue. Mes excuses d'avoir été long, mais il fallait quand même que je vous dise ceci. Naturellement, la description continue. C'est pas terminé, hein, loin de là. Il y en a encore des pages et des pages. En somme, le moment semble venu de donner un vigoureux coup d'épaule pour renverser... Pardon, je lis avant, c'est extrêmement important, j'allais l'oublier. Celui qui a inventé les cérémonies du culte catholique était un grand génie. Il ne faut pas se le dissimuler. Il ne parle pas du Christ, là, hein, je vous le dis tout de suite. Il parle de l'homme qui a inventé le culte, le pape, en l'occurrence, certainement. Mais son but n'était point l'émancipation intellectuelle du peuple, tant s'en faut. Alors là, nous allons avoir le message de Courbet. Retenez-le, parce que c'est ma conclusion, et le fait que Courbet était peut-être anti-curé, je ne dirais pas anti-clérical, vous voyez, c'est anti-curé, anti-moignon, en bafrant et en riant, mais il n'était pas anti-religion. Le texte est là. Je voudrais bien connaître, mais son but n'était point l'émancipation intellectuelle du peuple, tant s'en faut. Je voudrais bien connaître l'opinion du Christ à ce sujet. Mais il faut oser l'écrire, ça. Mais c'est formidable. Ça nous revalorise Courbet. À la fin d'une écriture blasphématoire, selon certains. En somme, le moment semble venu de donner un vigoureux coup d'épaule pour renverser cet échafaudage officiel de jonglerie ridicule, y compris de sa part. Du reste, la religion n'est point mise ici en jeu. Je répète la phrase parce que je l'ai mal lue. Du reste, la religion n'est point mise ici en jeu. Bon sang, c'est clair.
Merci.
Il ne s'agit que des menées absurdes de quelques-uns des hommes qui ont la prétention de la représenter. Que chacun s'enroule sous la bannière de son choix. Mais c'est un cri de liberté au moment où justement la démocratie chrétienne commence à pénétrer grâce à Louis XIII, à Léon XIII, 20 ans après, ça sera chose faite avec l'encyclique Rerum Novarum, on aura le ralliement des chrétiens à la République. Mais Courbet a précédé Léon XIII et les chrétiens sociaux et la démocratie chrétienne. Je l'affirme volontairement parce qu'il l'écrit. Que chacun s'enrôle sous la bannière de son choix et qu'il soutienne ses pasteurs. Rien de plus juste, c'est la liberté de conscience. Donc vous entendez ça ? Mais pourquoi une religion d'État ? Est-il juste et surtout prudent de conférer à une caste qui a malheureusement fait ses preuves le soin exclusif d'instruire et de guider la jeunesse? Peut-on continuer à forcer un père de famille dont les idées sont diamétralement opposées à celles des prêtres de payer leur saturnale sur des impôts lorsque saturnale il y a? Lorsque saturnale il y a. Il ne remet pas en cause autrement. Non, non, mille fois, non. Donc le seul remède à apporter à cet ordre de choses est de proclamer la liberté absolue des cultes et de laisser aux croyants de toutes les communions le soin de rétribuer leurs ministres. Mais c'est énorme. Il en avance de 100 ans. Les églises et les maisons conventuelles pourraient alors être laissées louées aux prêtres qui voudraient couvrir les chances d'une entreprise religieuse. De cette façon, la dignité de l'homme serait sauvegardée et chacun serait l'arbitre suprême de ses intérêts spirituels. Il faudra bien qu'on en arrive là. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et je crois, comme j'espère que vous croyez comme moi, à la sincérité de celui qui l'a écrit. Et ce n'est pas du tout ce qu'on présente, y compris même dans le catalogue, qui est par ailleurs très bien fait, mais qui a naturellement pas insisté sur cet aspect. Et c'était volontaire d'ailleurs, hein. C'est logique. Mais j'aimerais qu'un jour on ait ce correctif que l'Institut a bien voulu publier quand même. Et c'est ça extraordinaire. C'est que l'Institut a pris ça après le corps, a osé aller jusqu'au bout. Et je l'en remercie beaucoup, à l'envers de Madame de...
L'Institut vous remercie profondément, sincèrement.
Ce qui semble pour ce petit livre-là.
Il est paru il y a 2 ans.
Ah oui.
Mais je pense qu'il est en rupture.
Comment il s'appelle? Comment il s'appelle?
Il est en rupture.
C'est le bulletin de l'Institut.
Ah, c'est
mais vous l'aurez en bibliothèque de toute façon.